Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Adaptabilité. S'il devait y avoir un mot pour décrire un état de santé optimal, ce serait celui-ci. La capacité du corps à s'adapter, en toute situation, à son environnement. Et cette adaptabilité se travaille, notamment en ajoutant de petites doses de stress, courtes mais intenses, pour entraîner nos réponses mentales et physiologiques. C'est le sujet de ce nouveau podcast de Limitless Project, en compagnie de Pierre Dufraisse, expert de l'hormèse. Ensemble, nous parlerons de l'exposition au froid, au chaud, au virus, d'entraînement, de mouvement, de respiration et de jeûne intermittent. Mais nous explorerons aussi des sujets plus philosophiques autour du stoïcisme, de notre rapport à la nature, de nos habitudes sociales métaboliquement insultantes et de l'importance de ne jamais, au grand jamais, se résigner. Comme le dit très bien Pierre, notre corps est un temple et ne pas le respecter est le pire de l'égoïsme. En écoutant cet épisode, tu fais donc déjà preuve d'altruisme et tu peux en être fier. Bonne écoute! Salut Pierre!
Salut David!
Écoute, pas très très original, mais pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui te connaissent pas encore?
Bien sûr, je me présente avec grande joie. Pierre Dufraisse, j'habite à Villeneuve-les-Avignon, comme tu peux le voir, de visu, et ça fait du bien de se voir en vrai. C'est dans le sud de la France. Je suis le fils d'une famille qui comptait 5 personnes et qui n'en compte plus que 4 parce que j'ai perdu mon papa il y a quelques années. Je suis le petit frère d'une grande sœur et d'un grand frère. Je suis le fils d'une maman. Voilà, ça c'est vraiment le plus important que je viens de poser là. Après, j'ai un parcours assez éclectique, on va dire. Je suis passé par le Japon où j'ai vécu 6 ans. Je suis passé par le monde du business. Je suis encore entrepreneur parce que j'ai plusieurs entreprises dans le monde de l'environnement. Mais ce qui me caractérise et ce pourquoi je suis généralement connu sur Internet, c'est Verisme TV. C'est mon travail de thérapeute, donc premièrement de naturopathe. Ça a été mon premier travail et ça reste ma formation de cœur, celle que j'utilise au quotidien, c'est les fondations de ma pyramide. Et par-dessus ça, j'ai été formé, j'ai fait des certifications et j'ai passé des diplômes d'état de préparateur physique, préparateur mental. Je suis allé voir certains grands coachs sportifs comme Christian Thibaudeau, Ido Portal. J'étais formé à la posturologie par Mathieu Boulet, qui est devenu un ami par la suite. Bref, je suis passé un petit peu partout. Méthode Strong Fit aussi beaucoup. Et tout ça cumulé fait que maintenant j'aime transmettre ma passion pour la physiologie sur une chaîne qui s'appelle Verisme TV sur YouTube et que je me suis spécialisé non plus dans uniquement la naturopathie mais l'accompagnement à haut niveau. Donc c'est club de sport, sportif pro, individuel, voilà à peu près qui je suis.
C'est génial de t'être nourri d'autant d'enseignements, de formations différentes avec des gens passionnants. Enfin, je connais certains de noms, même si j'ai pas encore eu la chance de suivre des stages. Juste une petite parenthèse, est-ce qu'il y en a une qui t'a plus marqué que les autres?
Oui.
Laquelle?
Maurice Dobar, le Yoga Tummo. Il y a avant et après. Alors, on m'avait déjà prévenu, je passe un coucou à un autre David, David Tan de Life Force, qui est un de mes grands frères de cœur, qui m'avait dit si tu vas chez Maurice, il y a avant et après. C'était vraiment sa phrase. Et donc Maurice Dobar, c'est le maître du yoga Tummo, qui est reconnu par les Tibétains. C'est le seul en Occident. Le yoga Tummo, c'est le yoga du froid qui est très popularisé par Wim Hof de nos jours. Et Wim Hof, j'adore sa méthode, bien sûr. Mais Maurice, quand même, il est français déjà, donc ça fait plaisir de le dire. Il a fait tous ses records de bain dans la glace, exposition au froid dans les années 50, 70, etc. Et il est allé au Tibet se former auprès des moines tibétains qui pratiquent ce yoga du froid. Et c'est le seul qui était reconnu comme maître du Tummo, parce que le Tummo, ça ne se transmet que de maître à élève, oralement, et pas par écrit. Et quand je suis allé me former chez lui dans les Alpes italiennes, dans la vallée d'Aoste, c'est des expositions au froid toute la journée. C'est un marathon mental parce que tu enchaînes les assises dehors par moins 20, moins 25. Tu enchaînes par les randonnées dehors, toujours en maillot de bain, dans la neige. Tu enchaînes par les bains dans l'eau glacée, le lac gelé, etc. Et il n'y a pas une seconde où ton corps toutes les cellules de ton corps ne te demandent pas d'arrêter. Et toi, tu continues au mental. Et là, là, il se passe des choses en toi, qui se passeraient peut-être jamais dans ta vie si tu n'avais pas vécu ça. Et j'en suis ressorti vraiment complètement transformé, vraiment à énormément de sens du terme, au point où je me rappelle être rentré chez moi et avoir commencé à raconter ça à ma mère et fondre en larmes, vraiment en le racontant, tu vois. Donc ouais, ça, Maurice, c'est à part. Après, Ido Portal, j'ai trouvé un philosophe, alors que je m'attendais à avoir le maître du mouvement, etc. Ça, c'est clair, il l'est. Mais qu'est-ce qu'il est pertinent par sa verbe. C'est transcendant, c'est vraiment très inspirant. Voilà, il y en a plein, mais c'est ouais, des grands maîtres qui m'ont beaucoup nourri.
Ah, super. Écoute, j'espère avoir la chance un jour de suivre l'une de leurs conférences ou l'un de leurs stages.
Ouais.
De toute façon, on va reparler un peu tout ça, du froid, de l'hormèse, etc. C'est quand même ton cheval de bataille et c'est une des raisons principales pour laquelle j'avais envie de discuter avec toi. Néanmoins, avant, je voudrais te remercier de participer à ce podcast et puis aussi de me permettre de le faire en pleine nature. Souvent, je regrette de constater qu'on passe nos vies dans des boîtes. J'ai presque l'impression qu'on s'est mis nous-mêmes en prison et qu'on est enfermés à l'extérieur de notre environnement naturel, comme si nous-mêmes, on était dans un zoo. Tu me donnes l'occasion de me reconnecter un peu à la nature pour enregistrer ce podcast. C'est la première fois que je le fais, je trouve ça génial. Et du coup, ça m'évoque une première question. Quel rapport est-ce que tu entretiens avec la nature? Comment est-ce que tu essaies de te reconnecter justement? Parce que c'est aussi lié au sens, à ton corps, à toi-même. Comment est-ce que tu essaies d'être plus à l'écoute de toi-même, de ton corps et d'entretenir cette connexion avec le monde qui t'entoure, l'univers?
Je pense... C'est la question fondamentale. Hein, ce que tu soulèves, le point, là, finalement, il n'y a pas grand-chose d'autre. c'est un peu bête à dire.
Ouais, on va la garder pour la fin. Alors.
Ouais, c'est clair. On va pas donner la conclusion maintenant, mais de toute façon, je vous ai dit que j'étais naturopathe et que c'était ma formation et mon métier de cœur. Naturopathe, ça vient de nature path, la voie de la nature en anglais. Et c'est simple. Ça me fait penser à la fameuse citation de Lao Tzu, pour moi, qui est juste parfaite. C'est « ma voie est simple ». C'est tout. Et en fait, enlever le superflu, Ido en parle beaucoup, et il tirait ça de Bruce Lee, hein. T'enlèves le superflu, tu gardes que l'utile. C'est la via negativa de Nassim Nicholas Taleb, c'est-à-dire on gagne plus de bénéfices à enlever quelque chose de négatif plutôt que à rajouter quelque chose que l'on semble être positif. Bref. La nature, pour moi, c'est ce qui est simple et ce qui est là et ce qui devrait toujours être là. Tu as reçu des grands messieurs de la posturologie dont notre ami Sébastien Zimmer, à qui je passe le bonjour. Voilà, il y a cette clique là que j'adore de Adrien Chartier à Sébastien Zimmer, de Mathieu Boulet qui parle beaucoup justement du système sensorimoteur, de travailler, tu vois, quand on y réfléchit un petit peu, ça peut porter à rire. On en est tellement loin de notre environnement naturel qu'on est obligé de s'inventer des stratagèmes, des petits jeux de genre, je regarde mon doigt, je déplace mon truc, etc. pour se remettre, en fait, dans un milieu naturel. C'est-à-dire que si tu vis dans la nature, automatiquement, ton champ de vision va s'élargir. Automatiquement, tu vas suivre des yeux un oiseau qui va passer de la périphérie gauche à la périphérie droite. Donc, tu vas utiliser les bâtonnets et les cônes pour la vision conique et périphérique. Automatiquement, tout ça va avoir lieu. Mais de nos jours, on est tellement déconnectés avec nos grosses chaussures surcompensées de plastique, avec nos lunettes de soleil, avec notre environnement fermé dans les bureaux, comme tu l'as dit. On ferme, on cloisonne, on se coupe de notre environnement, donc on coupe notre système sensorimoteur, donc on coupe notre adaptation au milieu. Et qui dit non-adaptation dit mort, parce que un système qui cesse de s'adapter, il n'y a pas de stagnation dans la nature. C'est soit tu l'utilises, soit tu le perds. Donc, force est de constater que tout tombe en berne de nos jours, système nerveux, système hormonal, système digestif, système osseux, système endocrinien, en veux-tu, voilà. Bon, comment faire maintenant? Comment faire chaque jour pour se reconnecter? C'est pas une discipline où je me force à me reconnecter à la nature, je me dis pas, bon allez, il faut que j'aille dehors, etc. C'est un plaisir à chaque fois. Et si je le fais pas maintenant, c'est un manque comme une drogue, un fumeur qui ou je sais pas moi, quelque chose, une addiction qui ne serait pas assouvie. Si j'ai pas mon contact avec la nature et ce petit temps bruit que tu entends des oiseaux, sincèrement, je me sens beaucoup plus stressé, j'ai beaucoup plus de mal à dormir, je perds mon rythme circadien, c'est-à-dire que tout, que ce soit Je sens bien que ma courbe du cortisol, ma gestion du stress, ma glycémie, et ma digestion, tout est impacté par ça, par ce manque-là. Donc, on attend toujours que la science valide des choses, c'est-à-dire, ouais, mais c'est pas sûr que les ondes, c'est pas sûr que ceci, c'est pas sûr que le contact avec la nature fasse... Et puis tout d'un coup, il y a une étude qui sort qui dit, vous savez que passer 20 minutes en pleine nature baisse vos taux de cortisol, etc. Alors là, tout le monde, ah ouais, c'est génial, etc. Mais sans blague, les gars, sans blague, ça fait combien de millénaires qu'on... Voilà, il faut revenir à la simplicité, voilà, pour accrocher les wagons avec ce que je disais tout à l'heure. La simplicité, le conseil de grand-mère. En fait, Nassim Nicholas Taleb l'explique très bien, il appelle ça l'effet Lindy, c'est-à-dire ce qui traverse l'épreuve du temps est pertinent. Parce que l'épreuve du temps, c'est l'épreuve ultime, c'est-à-dire que si c'est inutile à l'humanité et même à l'évolution, la nature s'en débarrasse. Donc si ça a traversé les âges, c'est que c'est pertinent et c'est que c'est intéressant. Donc il faut bien réfléchir et prendre conscience que ça fait que très peu de temps finalement dans l'histoire de l'évolution des animaux, on va dire, même de l'être humain a fortiori, que on s'est coupé de notre environnement naturel. Donc il faut vraiment remettre ça en perspective par rapport à tout ce qu'on essaye de faire de supplémentation, etc. Tout ça, c'est bien. Hein. Même les bains froids, c'est bien. Mais à côté de ce qu'est le contact avec la nature, je pense que c'est peanuts.
Tu le sais, produire un épisode de Limitless Project, ça prend du temps, ça demande de l'énergie. Et depuis que j'enregistre en studio, ça me coûte 400 euros par épisode. Vous êtes nombreux à me demander comment me soutenir. Aujourd'hui, j'ai une réponse claire. Il s'appelle la routine des audacieux. C'est une véritable boîte à outils. J'y partage tous les protocoles, les hacks et les routines que j'ai testées, affinées et intégrées dans ma vie ces 5 dernières années. Le but ? T'aider à libérer ton plein potentiel. Sans t'imposer des méthodes ultra complexes ou des gadgets hors de prix. C'est vraiment la loi de Pareto appliquée à la santé, la longévité et la performance. Le livre sort début septembre, mais tu peux déjà le précommander. Et c'est crucial, plus il y a de précommandes, plus les libraires s'y intéressent et plus ce projet a de chances d'exister en grand. Alors si tu veux me donner un coup de main et soutenir ce projet en investissant 20 euros dès aujourd'hui, le lien de précommande est dans la description de l'épisode. Merci infiniment pour ton soutien.
En fait, on met les deux pieds dans le plat de leur messe, puisque en réalité, le fait de plus être exposé à ces stress que sont le froid, le chaud, la faim, etc., c'est aussi une déconnexion de notre état naturel, de notre état d'homme d'ailleurs, de ce pourquoi on a été fait, de la façon dont on est censé fonctionner. Je crois savoir que t'en as fait ton cheval de bataille. Est-ce que d'abord tu pourrais m'expliquer déjà pourquoi cet excès de confort peut être négatif? Pourquoi est-ce qu'il pourrait diminuer la résilience de notre système immunitaire? Pourquoi est-ce qu'il pourrait enlever ce référentiel mental et favoriser le stress chronique? Et ensuite me dire comment le stress peut être positif? Parce que dans nos sociétés, le stress, il est toujours vu comme quelque chose de négatif, quelque chose à fuir. Pourquoi aller rechercher le stress? Comment est-ce que ça peut nous rendre plus forts et plus heureux?
Ouais. Vous avez 3 heures devant vous?
Bah, au moins 2.
Non, ouais, c'est sûr que ça a été le cœur de mon travail depuis pas mal d'années maintenant quand même. La loi de l'hormèse, c'est très simple, hein, c'est un système biologique qui a été découvert pour la première fois ce terme est utilisé en 1888 par un biologiste et surtout toxicologue qui s'appelle Hugo Schultz et qui s'amusait juste à mettre des poisons sur une levure pour voir si les champignons, ça les tuait ou si ça les renforçait. Et il s'était rendu compte qu'une toute petite dose de poison faisait pulluler, en fait, les levures. Elles se démultipliaient. Mais trop de doses tuaient toutes les levures. Donc, en fait, une petite dose stimule. Mais une grosse dose tue. Ça, c'est la loi de Schultz, je sais plus quoi. Bon, bref, vous trouverez sur Wikipédia très facilement. De ça, on a découlé donc le terme d'hormèse, hein, c'est lui qui l'a utilisé pour la première fois. En fait, c'est tout simplement pour expliquer comment un organisme vivant se renforce quand il est stimulé par un agent stressant, et qu'après, derrière ça, il y a une phase qu'on appelle d'intégration, de repos, voilà, tout simplement. Alors, on parlait en off tout à l'heure de sport et de musculation. En fait, les pratiquants de musculation, ils connaissent très bien ça. Toi qui as reçu Rudy Koya sur le podcast, voilà, vous en avez sans doute déjà parlé. La prise de masse musculaire, on appelle ça la surcompensation musculaire. C'est-à-dire, je passe une grosse phase catabolique dans ma salle de sport où je soulève de la fonte. Pour dire les choses très grossièrement et pas rentrer dans les détails, je détruis, je crée du dommage et je mets des guillemets partout parce que c'est voilà, il y aurait encore des choses à expliquer derrière ça, mais je crée du dommage en tout cas musculairement au niveau de mon métabolisme, etc. Donc une phase catabolique où on détruit plutôt qu'on construit. Et en fait, cet état de choc qu'on va connaître, il va y avoir une surcompensation face à ce stress. qui va dépasser en fait le point de départ. C'est-à-dire le lendemain, si j'ai fait une grosse séance de sport, je mange bien, je dors bien, le lendemain je me réveille, j'ai normalement plus de masse musculaire, un tout petit peu, hein, d'un jour à l'autre, c'est pas grand-chose, mais j'ai plus reconstruit que ce que j'avais la veille. Donc, mon point d'arrivée a dépassé mon point de départ. Et ce gain-là, c'est l'hormèse. Donc, les plantes, les animaux, tout le monde connaît ça. C'est-à-dire, vous prenez une plante, vous la mettez dans un environnement où le milieu est un peu plus hostile. Par exemple, vous la mettez en montagne, vous augmentez son altitude, etc. Soit elle meurt parce que le choc était trop fort. Soit ça se situe juste à sa limite adaptative. C'est-à-dire, elle pouvait juste s'adapter à ce nouvel environnement. Et pour s'y adapter, elle a dû renforcer, en fait, son système. Donc, elle a développé, voilà, un système plus résilient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous maintenant? Ça veut dire que quand on s'expose, enfin, on en revient au bon sens de la nature, mais quand on vivait au contact de la nature H24, on était assujetti au changement de température des saisons, de la nuit, du jour, etc. Et donc, on connaissait des moments où, on se gelait, quoi, carrément. On passait des moments de très grand froid, où le froid, c'était la mort. Donc, il fallait trouver une caverne, il fallait trouver un abri, il fallait construire quelque chose, etc. Là, le corps, il met en branle tout un tas de systèmes adaptatifs, que sont, le système nerveux, le système hormonal, même le système immunitaire, pour se rendre plus fort. Parce que si tu te rends pas plus fort à ce moment-là, tu décèdes. Hein. C'est tout aussi simple que ça. C'est toujours le corps, il est toujours dans cette perspective de survie. Alors, ce qui est sympa depuis quelques années, c'est que on a la science qui vient nous prouver ça. Donc, ils ont étudié par exemple, les nageurs en eau froide dans les pays nordiques. Ils se sont rendus compte que non seulement ils ont beaucoup plus de natural killers et d'autres types de globules blancs, mais en plus, la réponse est plus virulente quand il y a un élément pathogène qui rentre. Ça a été montré avec l'expérience de Wim Hof, où on lui a injecté Escherichia coli, donc une bactérie qui se loge généralement au niveau de l'estomac. Grâce à sa technique de respiration, de visualisation, etc., il a su stimuler son système nerveux sympathique, lui qui s'expose régulièrement au froid et qui fait des techniques de respiration, pour ne pas avoir du tout de symptômes. C'est pas du tout qu'il a éteint son système immunitaire, c'est qu'il a suractivé. Parce que les organes lymphoïdes, que sont la rate, la moelle osseuse, etc., ils réagissent, en fait, à la présence de noradrénaline et d'adrénaline, les neuromodulateurs du système sympathique. Donc, en gros, si vous êtes stressé, tout de suite, ces neurotransmetteurs, ils vont stimuler, par exemple, la rate ou d'autres, ou le thymus, pour relâcher des globules blancs dans la circulation et combattre un pathogène qui serait entré dans le système. Ça, c'est juste pour le froid. Mais on imagine très bien qu'un danger, un animal sauvage qui nous court après, ou un adversaire tout d'un coup qui nous arrive dessus, ça va demander une réaction extrêmement puissante de survie à l'organisme, qui, si et seulement si, peut se reposer après, va se renforcer. Maintenant, on met cette analyse en perspective, donc cette loi de l'hormèse qui est un principe de la nature, donc les principes, ils ont toujours été là, ils s'imposent à nous. Hein. Les règles, c'est nous qui nous les imposons à nous-mêmes. Mais les principes de la nature, ils sont là. Maintenant, on prend ces principes-là et cette histoire que je viens de vous raconter avec comment vit l'homme aujourd'hui. On se rend compte que toutes les règles, cette fois-ci pas des principes, mais des règles qu'il s'est imposé à lui-même, c'est-à-dire je dois manger à midi parce que je travaille de 8h à 11h30 et puis je reprends à 13h, donc je dois obligatoirement manger à midi. C'est-à-dire je mange plus du tout parce que j'ai faim, je mange plus du tout parce que j'ai trouvé ma propre nourriture, je mange parce que c'est la doctrine actuelle, c'est la doxa, quoi. C'est comme ça, c'est le système. Je me couche à 23h parce que les films, c'est de 21h à 23h. Pas du tout parce que le soleil se couche. En hiver, je mets une doudoune et du chauffage à la maison. Parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait faire comme ça. Et puis ma mère, elle m'a acheté des doudounes dès que j'étais petit, donc voilà. Plus d'exposition au froid. Plus d'exposition au chaud, parce que en été, on a la clim. Bref, c'est encore une fois, c'est la première fois, je pense, dans l'évolution, où il y a un animal, à savoir l'homme, avec un grand H, qui a fait un 180 degrés, c'est-à-dire il n'a pas pris une autre direction, hein. Il a fait un 180 degrés parfait par rapport à sa condition naturelle, son environnement naturel. Il est en train de faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Moi, ça me fait halluciner, c'est aberrant, tu vois. Maintenant, j'en suis presque quand on marche dans la rue, tout à l'heure, on était dans Villeneuve, etc., et juste tu prends le temps d'observer un individu lambda, tu dis, mais les chaussures, les vêtements, les montres, le portable dans la poche. Maintenant, le portable dans la poche, c'est une extension du corps, c'est-à-dire, on dirait que c'est une troisième jambe. les gens l'ont continuellement dans la poche. Ça me fait Ça me fait beaucoup réfléchir actuellement, vraiment. C'est abyssal même comme genre de réflexion. C'est pas très comment dire positif les idées qui me viennent et les pensées qui me viennent quand j'observe ça. Même si je suis optimiste pour la suite. Mais voilà, bref, c'était une longue histoire pour parler d'Hormez et de ce fait que l'absence de stress tue les meilleurs. Et nous sommes les meilleurs, hein. C'est-à-dire que le cortex humain, le cerveau humain, c'est un truc de fou, hein. On n'est pas, l'évolution a donné un taux de complexité à tout ça qui est faramineux. On est capable de faire un podcast maintenant et de parler, de philosopher toi et moi, enfin c'est incroyable. Mais on est en train de tuer les meilleurs en l'absence de perturbation. Il nous faut de la volatilité, c'est-à-dire il nous faut de l'élément hasardeux dans notre environnement. Et on nous vend le contraire depuis au moins 50 ans, c'est-à-dire la linéarité. Faites un crédit, achetez une maison, achetez une voiture, ayez juste 1 500 euros, 2 000 euros par mois comme salaire. La linéarité est partout, et ça c'est mortifère.
Écoute, super introduction, ça m'évoque 50 000 trucs et je me dis que ça va être difficile de sélectionner ce sur quoi j'ai envie de rebondir entre le fait que quand je promène mon chien le matin, je vois les gens surhabillés alors qu'il fait hyper chaud en réalité, et simplement parce qu'ils se posent pas la question et qu'ils se disent que de par le fait que le soleil est pas encore levé, il faut forcément mettre un pull et un manteau. J'ai aussi une petite intuition qui a pas directement à voir avec l'hormèse, qui est peut-être plus liée aussi, qui relie peut-être un peu avec l'effet placebo. Quand tu me parles de Wim Hof, qui a réussi à contrôler son système immunitaire, je me demande en quelle mesure le fait de très fort croire à quelque chose peut pas justement générer des défenses du corps. Et moi, par exemple, je suis très rarement malade, et les fois où je le suis, c'est pas que je m'écoute pas. Je m'écoute, mais je n'accepte pas de me laisser vaincre. Mmh. Et du coup, en réalité, tu vois, je te disais que j'avais eu le Covid, je me suis senti un peu fatigué une journée, j'ai quand même réussi à faire mon sport, et le lendemain, c'était fini, tu vois. Après, bon, il y a plein de gens qui ont eu des formes légères, et je suis pas du tout en train de dire que c'est grâce à mes habitudes, routines de vie et pensées hyper fortes que j'ai réussi à combattre le Covid. Mais ce que je veux dire, c'est que dans toute l'histoire de ma vie, j'ai un peu cette intuition que, en ayant une communication sincère avec son corps, justement, sans tomber dans le « je suis malade, donc je peux rien faire, donc je reste couché dans mon canapé », et j'ai l'impression que ça, ce genre de comportement amplifie la maladie. Donc voilà, donc ça m'évoquait ça aussi. Après, parce que sinon on va trop digresser. Je retourne sur l'hormèse. Avant qu'on parle des différentes lois de l'hormèse que tu proposes, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas considérer que les stress qu'on a au quotidien, dans notre travail, ne pourraient pas remplir cet objectif-là?
C'est vrai que c'était la deuxième partie de ta question tout à l'heure, donc t'as raison de revenir là-dessus. Simplement, ce que tu as dit juste avant, c'est fondamental. Juste, je dis ça. C'est-à-dire que je me bats, en fait, je me suis rendu compte que tout mon travail, c'était uniquement pour lutter contre la résignation. Vraiment, c'est le sentiment qui me fait le plus peur. C'est-à-dire quand quelqu'un te dit « c'est comme ça ». Et notre génération, la génération de nos parents, on a à peu près le même âge, elle est vraiment née de ça. Elle porte ça. C'est-à-dire « oh, bah, tu sais, c'est l'âge. Oh, tu sais, c'est comme ça. »
Il est mort de vieillesse.
Voilà, tu sais, avoir le diabète, comme ça, c'est comme ça. Ils sont fatalistes. Ils sont résignés parce que ils viennent d'un moment d'après-guerre, où ils ont grandi, où c'était très top-down, c'était très pyramidal, où le journal de France 2 de 20h avait, c'était la vérité établie et on pouvait pas le questionner. Et nous, notre génération, est beaucoup plus, à checker les informations. Un peu moins, il y a des gros filtres à bullshit. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés, hein, mais, la résignation, c'est vraiment ce qui est mortifère. Bref.
Non, continuons 2 secondes sur cette digression, parce que du coup, je pense aussi que c'est difficile de regarder la réalité en face. Mmh. Et c'est beaucoup plus facile de se dire c'est parce que c'est une fatalité quand tu vieillis, t'as le cancer ou t'as une maladie cardiovasculaire, que de se dire qu'on devrait faire attention à notre alimentation et faire du sport. Mmh. C'est plus facile de dire que c'est la faute de la génétique et puis te trouver le pauvre exemple de la seule personne qui a eu un cancer à 40 ans alors qu'elle mangeait bio et qu'elle faisait du sport, que de toi-même essayer d'être force de changement dans ta vie. Et parce que dans la tête de beaucoup, le fait de remettre en cause radicalement leur façon de vivre, quelque chose qui fait profondément peur, je pense. Parce qu'en réalité, et donc du coup, la première approche, ça va être de la méfiance, voire de la jalousie, parce qu'ils s'en sentent pas capables eux-mêmes. Alors qu'en réalité, une fois que tu considères ta vie, ton corps, comme la chose la plus précieuse que tu es, dans laquelle la seule chose qui vaille vraiment dans le, dans laquelle tu dois investir, mmh. eh bien, tu te sens hyper aligné avec tout et tu te sens plus en forme, plus énergique, etc. Et c'est pas du tout une privation que de pas aller manger chez McDo ou de pas prendre une cuite tous les soirs.
Mmh, bien sûr. C'est, y a un grand retour en force en ce moment d'une philosophie qui, de cœur aussi, qui m'a assez chamboulé il y a quelques années, qui est le stoïcisme. Mais si tu veux, tous les philosophes de l'Antiquité, que ce soit les cyniques, les stoïciens et même les épicuriens, parce que c'est assez mal compris l'épicurisme, ne parlent que de ça. Du travail sur soi-même. Sénèque, quand dans Lettre à Lucilius, Lucilius, je le cite souvent ce passage parce que pour moi il m'a chamboulé. Lucilius lui dit bon ben en ce moment voilà je travaille sur moi-même quoi, j'étudie, je bouquine, je suis assidu, etc. Et Sénèque répond tu me dis que tu travailles sur toi-même et rien ne fait plus plaisir. Pour moi, tout cheminement personnel, s'il ne conduit pas à une méta-analyse, c'est-à-dire de l'analyse de sa propre analyse, il est caduque. Enfin, en tout cas, il perd un peu son essence. C'est pas facile parce que on nous propose un monde qui va à l'encontre de ça. C'est-à-dire, on nous propose que de la diversion, des écrans, de la télé, le smartphone. Le smartphone, j'en ai parlé, mais c'est sans arrêt une diversion de ne pas regarder vers l'intérieur de soi et ses propres pensées. Donc dans ce monde-là, oui, c'est comme tu l'as très bien dit, c'est très complexe de se remettre en question, de penser, est-ce que je fais bien les choses, est-ce que c'est juste, hein? Marc Aurèle disait, il y a une seule question qui compte, c'est en tout temps, demande-toi si c'est juste, c'est tout. Et voilà, c'est comme Lao Tzu, les choses sont simples en fait. Mais tant que tu t'es pas posé avec toi-même, alors c'est sûr que ça peut passer par une sorte d'épiphanie, par un moment très fort comme le stage avec Maurice Daubard que j'ai fait, mais ça peut être aussi comme Eckhart Tolle qui s'est juste mis dans un parc et qui a eu une illumination tout seul par la méditation. Ça peut être aussi, je sais pas moi, par une séance de sport que vous allez faire. Mais se transcender par l'effort, ou se transcender par la pensée ou se transcender par le contact avec autrui, rajouter du contact humain et penser à ses propres pensées. Tout ça, ça doit mener vers, en fait, ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire l'écoute de soi-même. Hein, on en parlait déjà en off avant de commencer. Depuis que je m'écoute moi-même, c'est waouh, c'est en fait il y a rien d'autre, quoi. Hein, c'est-à-dire il faut que j'ai une philosophie de vie qui me remette en question, où je me remets moi-même en question un peu tous les jours. Ça me permet d'avancer, en fait. Ça me permet de pas me reposer sur mes acquis, de voir ah bah ça c'est une erreur en fait. J'étais à l'habitude où je fais telle chose. Là je me suis comporté comme un crétin. Là j'ai bien agi. Là c'était cool. Si t'as pas ça dans ta vie, si t'es pas le capitaine de ton propre bateau, tu vas te faire mener par le bout du nez partout. Et c'est vrai que la crise actuelle, on peut voir un comportement moutonnier un peu, voilà, généralisé. Ça met en exergue un petit peu tout ça. C'est-à-dire, pour moi, c'était très révélateur. Et j'en parlais beaucoup avec des amis. C'est-à-dire que tout ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant, c'était des temps qui étaient relativement faciles. Puis là, il y a eu une crise, il y a eu un moment assez dur. Et c'est dans les moments difficiles où il faut sortir les armes. On avait l'impression, on se disait, en fait, on s'est préparé depuis tant d'années pour ce moment-là. Et on voyait tous les gens qui s'étaient pas préparés. C'est-à-dire, complètement décontenancés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Mais qui dit la vérité? Où est-ce que cache la vérité? Parce que, dans les médias, dans Internet, etc., dans les mêmes canaux de nos jours, Étienne Klein en parle beaucoup, circule information, avis, opinion, fake news, Tout et n'importe quoi. Comment tu fais la différence là? Et si t'as pas le recul de te voir, de considérer tes propres actes et tes propres pensées, comment tu fais pour naviguer là-dedans? C'est la galère. Je comprends que les gens derrière ça, se réfugient, comme tu dis, dans la facilité. C'est-à-dire, là j'y comprends rien, ce qui se passe. Apparemment il y a des gens qui comprennent mieux que moi parce que apparemment ils ont un costard cravate ou ils passent à la télé, donc il faut que je les écoute. Et ben je me mets en posture complètement passive. Et c'est normal, ils ont pas l'info. Et ils ont pas fait le travail sur eux-mêmes avant. Donc il y a pas du tout à les fustiger ni quoi que ce soit, à leur reprocher quoi que ce soit. C'est juste que ils ont été moulés par un environnement qui leur permettait pas ça. Donc ce que tu fais, le travail de podcast, ce que j'essaye de faire aussi, tout ça où on essaye de reprendre en fait les rênes de notre vie et donner des billes en fait aux autres, je pense que ça peut changer le monde. En toute sincérité, hein, y a pas un moment où tu sais, ça me fait toujours penser. Je cite toujours ça, c'est quand on était petit, il y a un dessin animé qui s'appelait Minus et Cortex. J'adorais ce dessin animé où t'as deux souris de laboratoire qui parlent entre elles et il y a un crétin et un génie. Et Le génie, évidemment, c'est Cortex. Et Minus, il lui dit, dis Cortex, tu veux faire quoi ce soir? Et Cortex, il lui dit, la même chose que cette nuit, Minus, tenter de conquérir le monde. Et moi, chaque matin, je me dis, mais comment je vais faire pour transformer le monde, quoi? Et si tes rêves, ils sont pas assez grands pour te faire peur, c'est qu'ils sont pas assez grands. Hein. Il faut vraiment que ce soit effrayant, quoi. Donc, avec cette perspective-là, je pense qu'on peut changer le monde toujours en proposant aux gens une autre voie que celle de la résignation, tout simplement.
Génial. Génial. Bon, d'ailleurs, j'en profite encore pour faire une mini digression, mais là, c'est juste une question. J'avais entendu parler, il me semble, que tu travaillais sur des livres pour enfants afin de leur permettre de comprendre la physiologie et de, justement, prendre les décisions qui sont importantes pour eux. Parce que, justement, pour changer de monde, bah, ça commence peut-être par changer l'éducation des prochaines générations. C'est un point qui me touche particulièrement parce que je suis jeune papa, j'ai une petite fille de 5 mois et j'ai envie du meilleur pour elle. Alors, du coup, je vais te poser deux questions en une. La première, c'est est-ce que ce projet de livre est toujours d'actualité? Et la seconde, on va pas y passer une heure, mais s'il y a une chose fondamentale que tu voudrais me conseiller de faire pour essayer d'offrir le meilleur départ dans la vie possible à ma fille, quel serait-il?
La responsabilité que tu mets sur les épaules, là. Alors, il va falloir que je mesure ma réponse, parce que si je te donne un mauvais conseil et que dans 10 ans tu me dis ma fille c'est devenu n'importe quoi à cause de toi,
ouais, j'ai quand même mon libre arbitre, hein,
c'est clair. Non, alors les livres, bien sûr, c'est toujours en cours. Je me suis engagé, et je pèse mes mots, avec des grands monsieur qui étaient mes héros et qui sont devenus mes amis, donc j'ai cette chance. C'est Gunter Pauli et Idriss Aberkane. Je me suis engagé très fortement, et je pense que tous les hommes avec un grand H, donc les hommes et les femmes, à un moment de leur vie, il faut qu'ils s'engagent socialement. Le combat de ces grands monsieur, c'est non seulement l'environnement, ils sont connus pour ça, mais aussi l'éducation. Et moi, j'ai à cœur de travailler avec eux, et je le fais déjà, et j'ai des grosses choses à annoncer, et bientôt ce sera annoncé sur tous les médias, et j'en serai très heureux. Mais il y a aussi ce projet de livre, pour les enfants, il y a vraiment un truc particulier, c'est s'inspirer de Il était une fois la vie, qui était le dessin animé de notre enfance où on apprenait en s'amusant. Et Verisme TV, en fait, ça a commencé comme ça, hein, c'est-à-dire je fais des schémas sur mon tableau et je parle à mon tableau. C'était exactement ça, en fait. Et en fait, c'est une série de trois tomes, donc un roman qui comporte trois tomes, si on veut, une histoire qui comporte trois tomes dans le corps humain, où on suit les aventures de trois cellules, en fait. Alors, il y a une, c'est une neurone, une autre, c'est une cellule des intestins, une autre, il y a deux cellules des intestins, qui vont partir, en fait, depuis les intestins, et qui vont remonter jusqu'au cerveau, et qui ont envie des aventures à la Seigneur des Anneaux, si tu veux, mais dans le corps humain. C'est-à-dire, ils vont aller dans le foie, et en fait, le foie, c'est une énorme ville futuriste. Voilà, chaque organe, chaque lieu du corps est romancé, scénarisé, vraiment comme un roman d'héroïque fantasy. Afin que, de 7 à 77 ans, parce que tout le monde lit Le Seigneur des Anneaux, les enfants comme les adultes, on trouve une aventure dans le corps humain, et on apprend en même temps, en s'amusant. Et ça, c'était, j'y ai pensé aussi en voyant l'engouement quand j'étais adolescent, et toi aussi, avec le même âge qu'on a, de l'engouement qu'il y avait autour de Harry Potter et du Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire, ça soulevait le monde entier. T'avais les auteurs des romans les réalisateurs du film qui allaient à un endroit pour faire une première du lancement d'un des films ou quoi. Il y avait la planète entière, toutes les caméras, toutes les télévisions suivaient ça. J.K. Rowling, elle est devenue la femme la plus riche de Grande-Bretagne. Enfin, c'était colossal l'engouement qu'il y avait. De nos jours, et bon, on peut comparer avec Game of Thrones ou certaines œuvres de fiction, mais en fait, je m'étais fait la réflexion, je me suis dit, mais si cette œuvre-là, que toute la planète suit, transmettait quelque chose, juste, par exemple, la connaissance du corps humain, mais on aurait gagné. C'est-à-dire que tous les enfants sur la planète connaîtraient au moins les bases, les grands principes pour prendre soin d'eux. La santé, tu vois, au moins savoir à quoi sert le foie, à quoi sert le pancréas, à quoi sert l'estomac. Donc, si je m'envoie 3 litres de soda et du fast-food et des pizzas toute la journée, ça va peut-être pas le faire. Tu vois, juste des petites bases comme ça. Mais en fait, c'est même pas en une génération, c'est tout de suite on change le monde, parce que les enfants, une fois qu'ils ont changé, et toi tu vas connaître ça bientôt, ils font la loi à la maison. C'est-à-dire, une fois que papa, je veux plus ça, à la maison, je veux plus ça, c'est pas les parents qui décident, c'est les enfants. Et ça, c'est fondamental. Donc, on peut aller très, très vite pour changer les choses en passant par les bons médias, en fait. Donc, ce projet-là de livre, j'ai écrit les deux premiers tomes. Je suis en contact avec plusieurs maisons d'édition. J'espère que ça aura lieu. J'aimerais qu'il y ait des illustrations, un petit peu par-ci, par-là, tu vois, une vingtaine d'illustrations dans le roman. Donc, c'est ça qui prend un petit peu de temps. Mais j'espère que ça paraîtra soit cette année, soit l'année prochaine. Donc, c'est en cours. Ta fille, j'espère, pourra le lire. Je t'offrirai une version dédicacée avec grande joie.
Merci.
Deuxième partie de la question, tu m'as dit conseil. Conseil pour un jeune papa. Le plus beau des cadeaux. Alors, tu veux un conseil ou tu veux un cadeau à lui offrir?
Je sais pas. Je te laisse l'appréciation de ce que tu veux m'offrir à moi, en tout cas.
Ok. Il y a quand même... le travail de Matt Boulet, des posturologues, de Sébastien, d'Adrien, qu'on a déjà cité, qui est assez fondamental, je trouve. Le travail aussi dans des réflexes archaïques de Paul Landon, avec qui j'interviens sur le centre de formation SSCS Training, où on forme des préparateurs physiques, qui est, je pense, assez fondamental. C'est-à-dire, il y a certains mouvements, en particulier de 0 à 2 ans, 42 mouvements, vraiment, que le bébé doit maîtriser, et des réflexes archaïques aussi. Et il y a une chronologie derrière ça, c'est-à-dire de 0 à 3 mois, c'est tel réflexe, de 0 à 6 mois, c'est un autre mouvement, le ramper, le lever de la tête qui va activer les muscles dorsaux, etc. Tout ça, c'est en lien avec le développement du cervelet, c'est en lien avec plein de choses, tu vois, la coordination, coordination œil-main. Tout ça, ça participe, en fait, à l'établissement petit à petit de la pyramide d'apprentissage, et l'aboutissement jusqu'à cortex préfrontal, pensée rationnelle. Donc, si tu veux un individu qui soit en bonne santé mentale, émotionnelle, physique, je pense que soigner ses premières années de vie, par justement bien checker si tout ça c'est en place, c'est le plus beau des cadeaux que tu puisses lui faire. Donc voilà le conseil. Suis une formation, ils ont des formations en ligne, Adrien Chartier, etc. dans le labo
si je veux. Labo RNP, ouais.
Voilà, c'est ça. Voilà, t'offres ça. En fait, tu t'offres ça, tu te formes, et comme ça ton bébé, tu en prends soin.
Ok, super. Bon, écoute, merci pour ce beau conseil. Je suis tout à fait en phase avec ça. On va essayer de raccrocher à l'Hormès du coup.
Oui.
Donc tu devais m'expliquer pourquoi est-ce que les petits stress chroniques du quotidien qu'on peut avoir dans notre travail, quand on s'inquiète par rapport à nos finances, etc., ne pourraient pas jouer ce rôle d'adaptation, de résilience que font le froid, l'exposition au froid, la faim, etc., dont on va parler après.
Ouais, t'as raison, parce que c'est un point qui est très précis à comprendre. Et l'Hormèse, comprenez bien, quand j'ai parlé tout à l'heure ça nous a été un petit peu inspiré des toxicologues et voilà, des biologistes qui mettaient des petites toxines sur des levures, c'est que c'était des stress extrêmement ponctuels, puissants, et que ça devait pas s'éterniser. Parce qu'évidemment, sinon, ils tuent complètement les champignons. Par exemple, l'exposition au froid, mais ça pourrait être autre chose. L'exposition au froid, il faut que ce soit puissant et ponctuel. Douche froide, bain froid, peu importe. Et qu'après, il y a la phase d'intégration et de repos. A contrario, un stress chronique. C'est-à-dire, moi je parle d'exposition volontaire au froid, et à chaque fois que je fais une conférence ou je fais un stage, je dis bien, en hiver, quand je descends dans Villeneuve, ici par exemple dans mon village, et je vois un SDF et qui se gèle toute la journée et qui passe des nuits horribles, je ne considère pas que c'est du tout mauvais, je ne considère pas que c'est de l'hormèse. Hein. Je lui achète un sandwich, je lui achète ce qu'il veut, une pâtisserie, un truc chaud, ce qui lui fait plaisir d'abord. Hein. Je lui impose pas, je lui dis pas que c'est de la merde de manger des pizzas. Je lui achète ce qu'il veut, parce que je veux que ça lui réchauffe aussi le cœur. Donc ça, voilà, ça c'est chronique, comme le peut être... un patron qui vous met la pression et qui vous fait stresser, ou bien une histoire de couple vraiment pas épanouissante où votre mari ou votre femme, ça se passe très très mal, et toute la journée en fait vous avez des taux extrêmement élevés d'une certaine hormone qui s'appelle le cortisol. On en parle beaucoup parce que c'est diabolisé, mais en fait c'est une hormone qui, quand elle est dans les clous, nous sert extrêmement, elle est extrêmement importante dans le corps. Le problème, c'est que voilà, un stress qui serait plus chronique et pas ponctuel, il va faire sécréter par les glandes surrénales ce cortisol, qui est une hormone anti-inflammatoire en fait. qui est là pour calmer, c'est une pédale de frein pour calmer l'inflammation et réguler la glycémie sanguine. Hein, réguler, mettre de l'énergie en, pour prendre des, voilà, pour aller très vite, pour expliquer très vite les choses, mettre de l'énergie dans le système ou ne pas en mettre. Et c'est très pertinent au point de vue de la survie, c'est-à-dire si j'ai un stress, il faut que j'ai du sucre dans le sang pour courir, pour me sauver de ce danger, etc. Mais ça peut pas se passer sur le long terme. On n'est pas équipé pour. La chronicité, on sait pas faire. On n'a pas la physiologie pour. On connaît l'adaptation puissante à un stress aigu, mais l'adaptation chronique sur le long terme, toute la journée, ça, on n'est pas équipé pour. Donc, ce qui va se passer, c'est que si on a des taux élevés de cortisol, les rythmes circadiens, c'est-à-dire les rythmes journaliers la mélatonine, donc l'hormone du sommeil qui est sécrétée par la glande pinéale, des autres hormones, notamment les thyroïdiennes, tout ça va être perturbé. Donc, ce qui veut dire que très rapidement, ça peut nous faire prendre le gras du ventre que on voit chez beaucoup de nos contemporains, c'est-à-dire le gros ventre, hein, tout simplement, la bedaine. Ça peut avoir plein de voilà de dysfonctions au niveau du système immunitaire parce que le cortisol il va être à un certain point immunosuppresseur, c'est-à-dire il va supprimer l'action du système immunitaire, ce qui va faire que vous serez beaucoup plus sensible en fait et la proie des infections bactériennes, virales, etc. C'est d'autant plus intéressant et pertinent de nos jours, hein, où on parle beaucoup d'un virus qui se balade, etc. Mais les virus, il y en a 10 millions au mètre carré qui tombent chaque jour. On a vécu toute notre vie avec les virus. Et il y a toujours eu la grippe. Et on sait très bien que c'est les gens faibles qui meurent de la grippe saisonnière. On le sait, ça. Donc, dans le doute, renforcez-vous. Ça a toujours été ma phrase. Dans le doute, renforcez-vous.
Justement, c'est bien que tu parles de virus. Je vais peut-être te poser une question qui va te faire rire, mais... On est dans une logique aujourd'hui, bon forcément Covid oblige, où on porte des masques, on se lave énormément les mains, etc. Et puis ça a toujours été des conseils de santé publique que de se laver souvent les mains, justement de désinfecter, etc. Est-ce que ça serait pas une forme de stress hormétique que de s'exposer régulièrement à des virus, justement, à des toxines, à des allergènes qui potentiellement vont attaquer notre système immunitaire, mais peut-être le renforcer aussi. Et d'ailleurs, peut-être allez, là je vais peut-être un petit peu loin, mais au final, un vaccin... C'est pas du stress hormétique.
Alors, la question du vaccin, elle est un petit peu différente. Mais ce que tu dis, justement, c'est extrêmement pertinent. Imagine, t'as un jardin et tu l'as clôturé. Et t'as un chien dans ton jardin parce que tu dis, bon, mon chien, il est sympa. En plus, il va garder mon jardin, quoi. S'il y a un truc qui rentre, il aboie, il le chasse, il va l'attaquer, etc. Donc là, t'as deux choix. Soit tu le laisses faire sa vie et le chemin, en fait, qui passe devant ton jardin, tu n'y prêtes pas attention, tu te dis, bon, il y a des gens qui passent, mais mon chien, de toute façon, s'il y a quelqu'un qui rentre, il va me défendre. Soit, tu fais toi-même la loi et t'empêches quiconque, au maximum, de marcher sur le chemin qui est devant ton jardin. Okay? Si t'empêches quiconque, ton chien, au bout d'un moment, au bout de 5 ans, 10 ans, il aura complètement perdu le réflexe d'aboyer à l'intrus ou de défendre quoi que ce soit. Donc, le jour où il y a quelqu'un qui rentre sur la propriété, il s'en fout, il lui fait la fête, il pense que c'est un ami, tu vois. Il a toujours revu des amis qui venaient de te rendre visite. Il n'y a pas de problème. Si tu empêches, et encore une fois, c'est encore cette loi en physiologie, ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Si tu empêches par une surhygiène, c'est-à-dire passer son temps à se désinfecter les mains, passer son temps à tout pasteuriser dans sa maison, à passer à la javel, etc., à être, voilà, en overdose de ces éléments qui nettoient, en fait... entre guillemets, hein, notre environnement, tu n'es plus exposé à cette volatilité des infections virales, des pathogènes bactériens, etc. Il n'y en a plus dans ton environnement. Donc, en fait, tu raréfies ta propre flore bactérienne. Et la flore bactérienne, on l'a au niveau des intestins, ça, on en parle beaucoup, qu'il y a beaucoup de bactéries dans les intestins, mais tu en as sur ta peau, tu en as sur toutes tes muqueuses, en fait. Et eux, c'est les premiers remparts de ton système immunitaire. C'est les premiers gendarmes. Donc, soit... tu acceptes qu'il y ait des petits voleurs de temps en temps, et ça renforce en fait la vigilance des gendarmes. Soit tu acceptes qu'il y ait des petits incendies, et ça renforce la vigilance des pompiers. Soit tu supprimes tout, mais à ce moment-là, les pompiers, les gendarmes, ils seront pas entraînés. Le jour où il faudra vraiment passer à l'action. En fait, c'est ça. L'Hormez, c'est Nassim Nicholas Taleb, dans son livre Antifragile, il prend cet exemple-là des feux de forêt, ou dans le parc de Yellowstone, ou je sais plus quel parc, aux États-Unis, les gens qui gèrent le parc savent très bien qu'il faut faire des petits feux toute l'année pour brûler, en fait. Ils utilisent la méthode du brûlis, le bois mort, pour pas qu'il s'accumule. Parce que sinon... Si ça brûle d'un coup une fois par an, ça fait the big one et toute la forêt crame. Donc ça, c'est l'hormèse aussi. C'est-à-dire, par petites touches, ok, un feu, c'est chiant. Ça va brûler du bois, autant ça crame un arbre. Mais c'est impératif pour renforcer le système. Dans ce principe d'antifragilité et donc d'hormèse au niveau biologique, l'antifragilité, c'est comme l'hormèse, mais élargie au système complexe. Donc à tous les systèmes. Il faut comprendre que ce qui tue l'individu renforce le groupe. C'est parce que t'as une cellule dans ton corps qui peut être facilement tuée que tout le système va se renforcer. Un globule blanc, une cellule, se fait attaquer par un pathogène, l'information va transiter, et tout le monde, en fait, dans le système, va en bénéficier. Donc, ce qui tue l'individu renforce les autres. C'est la phrase de Nietzsche, ce qui ne me tue pas, tout ce qui ne me tue pas me renforce. C'est, dans l'hormèse, c'est plutôt ce qui tue l'individu renforce le groupe. Et ça, c'est important à comprendre. Comme dans le monde de la restauration. Ça aussi, c'est un exemple de Taleb. Le monde de la restauration en tant que tel est antifragile. C'est-à-dire, il va se renforcer vis-à-vis de chocs. Mais un restaurant tout seul, eh ben, il peut s'écrouler. C'est-à-dire, tout d'un coup, un restaurant, il perd son chef. Ou, il y a un problème d'approvisionnement. Ou, il y a trop de concurrence. Il périclite. Ou il y a plus de touristes qui passent par sa rue. Il meurt. Par contre, la restauration, ce système complexe-là, est antifragile. S'il y a beaucoup de concurrence, une sept concurrence, tous les chefs, en fait, ils vont se donner du mal pour inventer des nouvelles recettes. S'il y a un problème d'approvisionnement, je sais pas moi, en poisson, il y a une catastrophe dans l'océan, un truc de pétrole, etc. D'un coup, plus de poisson. Bon, mais il faut innover au niveau de la viande, il faut innover au niveau des légumes. Et en fait, les petits chocs renforcent le système parce que l'individu est mortel, mais le complexe en tant que tel est antifragile ou hormétique. Bon, je sais pas comment on pourrait arriver à raccrocher le wagon avec ta question.
Non, voilà. Si, tu réponds parfaitement bien. Bon, écoute, parlons de ces fameuses lois de l'hormèse. La première, c'est l'exposition au froid et au chaud, ouais. Si je ne m'abuse. Le froid, c'est un outil qui me parle particulièrement parce que bah, déjà, j'en ai parlé avec IceMind dans le deuxième épisode.
Eh oui, Jean-François.
Exactement. Et ensuite, parce que je pratique les douches froides depuis peut-être un an et demi, deux ans, j'y trouve énormément de bénéfices. Ça a vraiment été un vrai game changer dans ma vie. Un vrai. Le chaud, par contre, c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile à expérimenter. J'ai pas de sauna infrarouge, etc. Bon, tu peux parler de froid aussi, hein, mais j'aimerais avoir aussi ton sentiment justement sur le chaud. Quel type de protocole? Comment est-ce que tu t'entraînes justement ta résilience avec le chaud?
C'est marrant le chaud parce que, tu vois, dans le froid, moi, j'aime bien me documenter. Ça a toujours été une passion de retracer les historiques comme ça. Le froid en Europe, t'as l'abbé Kneipp qui a été l'un des premiers à travailler avec le froid en Europe de l'Est, qui était un abbé. À la base, c'était un médecin. Il s'est converti, il est devenu abbé. Donc, il a abandonné son métier de médecin, mais il a continué à être thérapeute. Finalement, il prenait soin des gens uniquement par le froid. Donc des bains de siège, des bains de pieds, des bains complets évidemment de froid, et il soignait tout le monde comme ça. Et les médecins lui couraient après, ils disaient c'est quoi ce fou furieux qui soigne les gens, il est même voilà. Mais comme il était plus médecin, il était juste abbé, il faisait ça gratuitement, il était inattaquable. Donc t'avais cet abbé là qui était très intéressant. Kneipp s'écrit Kneipp. Et t'avais en Russie le médecin de, si je dis pas de bêtises, de Lénine, qui avait son passe au Kremlin. Il était considéré comme un demi-dieu. Et il soignait lui, par contre, tout le monde avec le chaud. Donc tu vois, c'était complètement l'inverse. Et il faisait des bains hyperthermiques, les bains Salmanov. Salmanov, donc c'était son nom. Le monsieur qu'il appelait la capillothérapie, donc la thérapie des micro-capillaires, c'est-à-dire les tout petits capillaires, tout petits tuyaux sanguins qu'on a au bout des doigts, dans les extrémités du corps. C'est une tuyauterie qui est beaucoup plus importante que les grosses artères qu'on a au niveau du noyau en fait du corps. Et dans ça circule la grande majorité de notre sang. Et il disait bien, si vous n'avez pas d'élasticité par rapport à ça, si vous prenez pas soin de ces petits tuyaux là pour qu'ils font circuler le sang, qui est le liquide nourricier du corps, ben vous allez à l'encontre de plein de problèmes de santé. Donc il faisait ouvrir cette tuyauterie par la vasodilatation que provoque le chaud, c'est-à-dire l'ouverture des capillaires sanguins, le diamètre augmente, Comme ça, le sang circule jusqu'à la périphérie du corps. Ça, c'est ce qui se passe quand tu rentres dans un bain chaud ou quand tu fais un sauna. Alors, le sauna à infrarouge, il monte pas en température, donc je suis un petit peu moins fan. Il y a apparemment des effets, mais les études sont un coup oui, un coup non. Alors, je préfère le sauna finlandais sec qui monte la température. Et c'est très intéressant de voir que le corps, il met en branle des mécanismes de défense qui sont relativement similaires au froid, bien que le froid reste plus puissant. C'est-à-dire que le froid, le corps, il considère ça, c'est la mort. Tu rentres dans le froid, bain froid, etc. Il dit, il faut pas qu'on reste là, parce qu'on va clamser, quoi. Alors que un sauna, tu rentres, tu dis, bon, c'est chaud, ben, je peux m'en accoutumer, quoi. J'y vais, mais c'est pas non plus l'alerte.
Ouais, t'as une espèce de shoot de stress dans le froid,
ouais,
que t'as pas dans le chaud. D'ailleurs, si tu peux avoir n'importe quel problème, n'importe quoi qui te pollue l'esprit, il suffit que t'ailles dans un bain d'eau gelée et paf,
c'est ça.
Tout s'arrête, c'est le vide qui se fait et là tu te reconnectes à ta respiration, à toi-même et vraiment. Voilà, t'es propulsé dans l'instant présent et c'est d'une efficacité redoutable. Et même si tu connais ça, même si tu maîtrises le truc, maîtriser entre guillemets, maîtriser dans le sens où tu connais la réaction, etc. Donc ça te fait moins peur. Ça marche à chaque fois.
C'est ça.
C'est formidable.
Ah ouais. Tu as tout dit. C'est que Wim Hof, il adore avoir des punchlines et des t-shirts où il marque "Cold is my master". Tu vois, des trucs comme ça, c'est absolument jouissif. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que on se met tellement de masques de nos jours. Là, on a sans doute un masque tous les deux, hein, par rapport à qui l'on est. Moi, j'ai mis mon masque Verisme TV, etc., YouTube, tout ça. Toi, t'en as mis un autre peut-être. Après, je vais aller dans le centre-ville. Bon, ben, on m'en connaît pour autre chose. Tu vois, j'ai des interactions qui sont différentes. Après, avec ma famille, c'est encore différent. Finalement, quand est-ce qu'on est vraiment soi-même?
On est peut-être un mélange de tous ces masques.
Voilà, on est un mélange de tout ça. Mais j'aime à dire que dans ce stress intense du froid, tous les masques tombent. Et bon, avec de la situation actuelle, c'est pas un mauvais jeu de mots, mais c'est impressionnant. Et à chaque fois que je dis ça, je cite, je peux pas m'en empêcher, je cite Matrix, qui est quand même une école de la vie, où t'as un combattant qui dit à Neo, si tu veux, tu veux voir l'oracle, mais d'abord il faut que tu me combattes. Et Neo, il dit, mais pourquoi, je vous connais pas, pourquoi il faut qu'on se combatte? Pourquoi il faut qu'on se batte? Et l'autre, il lui dit, parce que si tu veux vraiment connaître quelqu'un, combat-le. Et c'est un petit peu ça, si t'as fait un peu des sports de combat ou des arts martiaux, tu sais que tout d'un coup, si tu mets les gants, ou tu combats un combat de karaté, moi j'ai fait du karaté, et de la boxe anglaise, tout d'un coup, tu vois le vrai visage de la personne en face. D'un coup, tu sais, il y a plus de faux semblants, il y a plus rien. D'un coup, et le froid, c'est pareil. Moi, j'ai vu des grands gaillards se mettre à pleurer. Alors, c'est vrai que dans les stages, je pousse le bouchon un petit peu loin, c'est-à-dire que je coupe le système sensoriel. Je mets des bouchons d'oreilles, des casques anti-bruit, un bandeau sur les yeux, et je leur fais faire un bain froid. Entre 0 et 4 degrés. Et là, moi, la première fois que j'ai fait ça, j'ai vu le mot froid s'écrire devant moi. En lettres. Comme ça. Des trucs. Il y a beaucoup de gens qui ont pleuré et je m'attendais pas à que ce soit eux parce que je les prends un par un, tu vois, sans le groupe. Donc pas de bruit, pas de musique de fond,
pas de pression, t'es pas porté par les autres non plus.
Exactement. Donc t'es beaucoup plus en connexion avec justement toi-même. Ce qui se passe avec l'intérieur de toi. Il y a des moments où j'aime beaucoup, hein, qui est le groupe. C'est entraînant et puis on crie, t'es dans le froid, etc. Bon, c'est génial aussi, hein. C'est différent. C'est juste une expérience différente. Donc tout est bien. Mais ces moments-là, pour moi, ils sont, voilà. Il faut regarder ce qui se passe chez la personne. Et donc, oui, le froid, les masques tombent. Je sais plus pourquoi je te parle de ça.
Je sais pas, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. J'ai jamais essayé.
On était sur le chaud, mais tu me disais, ouais, le froid, ça provoque un truc, c'est rédhibitoire, ça fait tomber les masques. Voilà. Donc oui, je te disais, le chaud, ouais, il y a quand même des processus adaptatifs qui sont relativement similaires. Alors on pourrait citer dans le froid, c'est certaines protéines qui sont libérées par le corps qui s'appellent les CSP, donc les cold shock proteins. Et ben t'as aussi le versant pour le chaud, c'est les heat shock proteins. Et en fait ces protéines là, ce qui est assez fou, c'est que elles ont un pouvoir antiradicalaire, donc elles piègent les radicaux libres. Et elles sont ce qu'on appelle des protéines chaperones, c'est-à-dire si tu chaperonnes quelqu'un, tu le diriges, tu vois, tu es un peu son garant, tu dis où aller, peut-être quand tu feras la même chose avec ta fille. Et ben là, ce qui est bien, c'est que ça permet de diriger aussi tout le processus d'autophagie, c'est-à-dire dans la cellule, on crée sans cesse des nouvelles protéines. On prend l'ADN qui est notre code, le plan de bataille en gros, le plan d'architecture. Et on fait à partir de ce code-là, on fait des protéines. Donc là, il y a tous les l'appareil de Golgi, il y a tous les organites à l'intérieur de la cellule qui travaillent de concert pour créer des nouvelles protéines, mais ils travaillent pas parfaitement. T'as 30% de protéines qui sont mal formées en fait. Et si elle est géométriquement mal formée, la protéine elle est inutilisable. Que ce soit pour devenir une enzyme, que ce soit pour devenir une protéine de structure, peu importe, si elle est mal formée, ça devient un truc qui va ne pas servir au corps. Donc ça, il faut le détruire en petits morceaux. Donc ça, t'as des lysosomes, t'as certains acteurs qui sont là pour démanteler tout ça en acides aminés et pour être réutilisé. Ça, c'est l'autophagie. Eh ben, les heat shock protéines ou les cold shock protéines, donc les HSP ou les CSP, ce sont des protéines qui vont diriger en fait cette autophagie pour dire bon, là, il faut qu'on recycle en fait, il faut qu'on fasse de l'autophagie de ce qu'on a déjà. Et ça, c'est hyper pertinent dans le nettoyage interne des cellules. C'est pour ça que on dit que le chaud et le froid sont protecteurs et permettent de lutter contre le stress oxydatif. Alors, j'aime pas utiliser des mots comme ça parce que ça veut rien dire, lutter contre un stress oxydatif. Il y a pas de lutte hein, dans le corps. Il y a pas un mauvais stress oxydatif. Il y a qu'une adaptation constante du corps par rapport à ce qu'on lui propose. Et le corps, il a toujours raison. Son adaptation est toujours juste. Et là, on entend un âne qui est en train de gueuler au loin. C'est génial. J'adore.
Et prendre une douche froide 5 minutes tous les matins, ça suffit à diriger correctement cette autophagie.
Tu vois, si je suis un mauvais thérapeute, je vais te répondre oui ou non. Si je suis un bon thérapeute, je vais te dire ça dépend. Parce que toute question quantitative, c'est-à-dire qui commence par combien de temps, combien de répétitions, combien de calories, combien de protéines. Tout ce qui commence par combien, si la personne vous répond de manière absolue, c'est-à-dire 30 grammes, 30 minutes, 5 minutes, oui ou non, etc., et qu'elle répond pas, ça dépend, fuyez. Parce qu'elle essaye d'imposer sur vous un dogme, une doxa, un truc qui a été lu, où elle fait un travail de perroquet. Voilà. Ou sinon, elle pense vraiment bien faire, hein. Elle est peut-être très bien intentionnée, mais ça ne marche pas comme ça, le vivant. On est tous différents. Donc, tu me parles d'une douche froide, ça dépend quel degré. Déjà, et ça dépend qui tu es, quel âge tu as, parce que ma grand-mère de 90 balais, si elle prend la même douche froide que toi le matin, la réponse adaptative du corps est complètement différente. Et à mon avis, il y aura peut-être pas les mêmes CSP, autophagie et tout le soin que je viens de vous sortir de la même manière que toi qui as 30 ans. Donc, la réponse, elle est toujours à individualiser. Et c'est là où YouTube a ses limites. Voilà, c'est pour ça que les réseaux sociaux, tout ce que vous pouvez lire sur Internet, c'est toujours très pertinent, mais il faut arriver à le lire avec des lunettes, un certain prisme de lecture qui vous permette de différencier ce qui est de l'ordre du principe et de la règle. Du gars qui est juste là pour avoir des vues sur YouTube et raconter un petit peu ce qu'il a lu dans des articles, et vous dire « Ah, faire 30 minutes de sauna par jour, ça lutte contre le stress oxydatif ». Donc le gars, il comprend rien. Il répète un truc, voilà. Et autant ça peut être au détriment de la santé de la personne, parce que 30 minutes encore une fois pour ma grand-mère, autant elle y reste hein, dans le sauna, ouais, définitivement. donc tu vois le conseil, le curcuma c'est anti-inflammatoire. Ah ouais? Je vais m'envoyer 5 kilos de curcuma là. Elle va se passer comment mon anti-inflammation? À mon avis je vais crever, hein, mon foie il va exploser. Donc tu vois le truc, les termes qu'on utilise de nos jours, la sémantique, c'est-à-dire la définition même des mots. Mais c'est du grand n'importe quoi. Donc, faut faire très, très attention. Bref.
Non, c'est hyper intéressant.
Et ouais, c'est pour ça que ça me fait toujours peur. Et si vous voulez vraiment des conseils de santé, déjà, essayez de trouver quelqu'un qui vient du terrain. Comme quand, si vous voulez trouver un acteur où on dit il faut qu'il vienne du monde du théâtre parce qu'il est passé par les planches et il a été face au public directement, etc. C'est là qu'on voit les vrais acteurs. Pour moi, un thérapeute, c'est pareil. Il faut qu'il ait exercé longtemps, qu'il ait le recul et la sagesse d'avoir eu un cabinet, d'avoir accompagné quelqu'un sur le long terme, etc. Peut-être que là, il aura une certaine pertinence, tu vois, si tu vois une vidéo YouTube de lui ou pas. Mais sinon, le gars qui débarque sur YouTube avec une vidéo qui zoom des zooms pendant 3 heures, 10 minutes justement, qui prend que des raccourcis, qui fait un travail de perroquet, moi, ça me fait très peur parce que les gens, ils écoutent ça et ils testent derrière. Et autant, ils se font plus de mal que de bien. Donc, pour revenir à ta question, la douche froide, si le stress, en fait, tout dépend de la réponse hormétique, hein, c'est toujours ça. Donc, si le truc, c'est, tu cherches vraiment la santé optimale, ça va être une stratégie différente que si tu cherches, par exemple, la perte de poids, ou que si tu cherches la gestion du stress. Voilà. Généralement, on a trois choses. C'est-à-dire, la personne, elle veut juste être en bonne santé. Donc, elle se dit, ah, bah, les douches froides, j'ai entendu parler de ça. Il paraît que c'est bon. Donc, je vais le faire. Ou la personne se dit, ah, il paraît que ça peut aider à perdre du poids. Et j'ai besoin de perdre du poids. Ou, moi, c'est au niveau gestion émotionnelle, je suis une bille, je fais les montagnes russes toute la journée, et il paraît que s'exposer comme ça, ça peut être cool. Bon. Et ben, ces trois stratégies-là donnent trois expositions au froid qui sont complètement différentes. Par exemple, pour la perte de poids, ce qu'on veut surtout, c'est que le micro-frictionnement des muscles relâche ce qu'on appelle des succinates, bon, c'est de l'acide succinique, c'est une certaine molécule dans le corps, par le micro-frictionnement des muscles, qui ça vont activer les graisses brunes du corps, en fait les mitochondries qui sont dans les graisses brunes, etc. Et là, ça peut aider à rendre les cellules graisseuses métaboliquement actives, à avoir un métabolisme plus élevé, qui sur le long terme peut aider à perdre du poids. Donc là, en fait, on cherche la puissance, vraiment le stress intense. On ne veut pas rester longtemps dans l'eau, sous l'eau, dans une douche froide ou dans un bain froid. Par contre, tu veux la température la plus froide possible que tu peux tolérer pour être vraiment dans le « waouh !» et tout de suite, tu sors. Ça, c'est si tu cherches à perdre du poids. Si tu cherches à la gestion émotionnelle, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, faut pas chercher le super méga froid. Faut chercher du froid, ok, mais surtout, tu veux rester longtemps. Et tu veux retourner, respiration calme, puis tu arrives à gérer tes émotions, puis tu laisses venir les pensées, tu vois les pensées négatives, etc. Et là, c'est super intéressant pour les sportifs pros, les acteurs, les managers, les chefs d'entreprise qui doivent gérer des situations stressantes et rester et arriver à trouver le confort dans l'inconfort. Donc là, c'est pas tant la température qui m'importe, c'est plutôt le temps d'exposition. Donc là, tu peux réduire la température, enfin en tout cas l'augmenter, et augmenter le temps d'exposition. Et si c'est par contre la pleine santé, etc., bah tu peux varier un petit peu tous les jours. Tu peux faire aussi jouer sur la vascularisation, de faire des douches écossaises chaud-froid. Tout sera bien, finalement. Cherche la variabilité, en fait. Et trouve le jeu derrière ça. L'important, pour la santé, c'est de garder l'habitude sur le long terme. Donc, voilà. Tu vois, t'as toujours des stratégies différentes.
Voilà, bah écoute, pour moi, c'est beaucoup plus simple. J'ai pas de thermomètre. Je me douche dehors avec mon tuyau d'arrosage.
Waouh, c'est bon, ça.
Donc, en hiver, je peux te dire qu'elle caille.
Waouh.
En été, elle est beaucoup plus chaude. Et comme ça, en plus, je suis le rythme des saisons.
C'est clair.
Je suis en connexion parfaite avec la nature.
Je vois, c'est parfait. L'hiver, le tuyau dehors, c'est du costaud.
Ouais, il est frisqué.
Ouais, bravo, bravo.
Bah écoute, on va passer à la deuxième. Du coup, c'est le jeûne intermittent. Peut-être recomprendre, se reconnecter avec nos sensations de faim. Bah écoute, c'est un truc hyper à la mode qui a autant de supporters que de détracteurs. D'un côté, ça m'attire parce que j'ai la sensation au fond de moi que je mange trop souvent et trop d'ailleurs. Et dans le même temps, je pense que j'ai encore plusieurs fausses croyances, notamment sur la validité de ce type de entre guillemets régime, parce que je pense que c'est pas le bon terme, mais il faut bien le qualifier, avec le sport et le fait de devoir consommer quand même pas mal de calories pour éviter de perdre du poids. Mais avant de parler de tous ces sujets, j'aimerais déjà essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça peut avoir des bienfaits. D'un point de vue théorique, je me dis, bon bah écoute, nos ancêtres, ils devaient chasser le bison, etc. Donc potentiellement, ils devaient jeûner un petit peu avant de manger, donc ça paraît logique. Ceci étant, dans nos sociétés modernes, on fait déjà un jeûne en fait toutes les nuits. Si tu manges à 9h, tu te lèves à 9h, t'as fait 12 heures de jeûne. Comment le fait de repousser de ne serait-ce que 4 heures, si tu manges à midi, ça fait 4 heures, donc 16 heures de jeûne, peut avoir un impact sur le corps. Qu'est-ce que ça fait?
Ouais. La raréfaction de nourriture, ce stress hormétique, il a été vraiment mis en lumière, et je vais avoir un trou de mémoire maintenant, j'ai plus retrouvé. Je suis désolé. Il a écrit un bouquin qui s'appelle 7 Rules of Stress, donc les 7 règles du stress. Donc vous trouverez sur internet cet auteur-là
qui mettrai de toute façon les références dans l'article.
Ouais. Qui décrit extrêmement bien à quel point la raréfaction de nourriture, en fait, tout simplement, c'est une logique parfaite, crée un stress énorme pour l'organisme. C'est-à-dire que si on bouffe pas, on meurt. Donc obligatoirement, comme un animal, il faut qu'on chasse, ou il faut qu'on trouve, faut qu'on cueille, ou faut qu'on déterre de terre une racine, peu importe, faut qu'on se nourrisse. Donc c'est normal que le corps, à partir du moment où son glycogène musculaire est hépatique, et que ses taux de glucose sanguin, et que ces cellules adipeuses, quoi, le stock de graisse qu'on avait mis de côté, commence à diminuer, il enclenche en fait hormones et neurotransmetteurs nécessaires pour aller trouver sa propre nourriture. C'est-à-dire, il nous rend très alerte. Et ce niveau d'alerte-là, c'est plus ou moins la même chose que l'on, dont on a parlé tout à l'heure dans l'exposition au froid, l'exposition au chaud, etc. On s'est rendu compte que l'autophagie... Pardon. C'est bien d'être en extérieur. Ça fait
là, tu t'exposes à des petits allergènes.
Exactement.
Pour renforcer ton système immunitaire.
Ah là là, mais si vous saviez. Si tu savais, ouais, quand j'avais dans ma jeunesse, hein, avant tout ça, là, quand j'avais encore 20 ans, je ne pouvais pas sortir de chez moi à cette période-là. C'est-à-dire, c'était crise d'éternuement sur crise d'éternuement. Maintenant, je vais éternuer sans doute dans cette interview 2-3 fois. Mais punaise, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi, de plus vivre
enfermé chez toi.
Mais ouais, c'est clair, avec les yeux, tu sais, comme ça, parce que tu te frottes les yeux et les yeux rouges. Enfin bref. Donc, la raréfaction de nourriture, le jeûne, ça faisait partie, comme tu l'as dit, de notre environnement naturel, et les réponses du corps sont encore une fois hermétiques. Il va y avoir, par exemple, un facteur de croissance neurotrophique, le BDNF, qui est tout simplement, on crée plus de synapses, on crée des nouvelles architectures au niveau de la plasticité neuronale de notre cerveau. On change les plans, en gros, pour nous rendre plus intelligents, plus malins, en fait. Intelligents dans le sens malin, c'est-à-dire, il faut tout d'un coup que j'aille chercher de la nourriture, sinon, dans quelques jours, à grand maximum, je risque de mourir. Voilà, c'est un état d'urgence et de très important. Et ce qui se passe, c'est que on dirige après l'épuisement de ces ressources internes, comme je l'ai dit, glycogène, glucose sanguin, etc., on se dirige vers une autophagie, c'est-à-dire on trouve soi-même à l'intérieur les sources de nourriture. C'est-à-dire il n'y a pas un moment où on arrête de s'alimenter. Le corps il s'alimente toujours, mais de l'intérieur. Et c'est là où cette fenêtre de jeûne va être intéressante. Et c'est vrai que des auteurs comme Walter Longo et d'autres, avant il y avait Herbert Shelton, Mosseri, les grands messieurs de la naturopathie et de l'hygiénisme, faisaient jeûner les gens, et ils savaient très bien que c'était à partir les premiers signes d'un gain quelconque au niveau de, par exemple, de l'autophagie, c'était au bout de 16 heures, quoi. Parce que généralement, au bout de 12 heures, de 12 à 14 heures, et là, bon, c'est propre à chacun, c'est individuel, encore une fois, selon l'âge, etc. Mais en tout cas, dans la fourchette de 12 à 16 heures de jeûne, on a plus normalement de glucose sanguin. Le dernier repas a été largement digéré, assimilé, le sucre sanguin a baissé, etc. Le glycogène musculaire et hépatique commence à être utilisé, et donc il y a des shifts au niveau métabolique. Donc c'est pour ça qu'on le jeûne intermittent est devenu très en vogue. C'est parce que sauter le petit déjeuner, on commence à s'approcher d'un moment qui va être intéressant au niveau hormonal, au niveau du shift métabolique. Donc voilà, c'est ça en fait le principe de sauter un petit déj, sauter un repas, etc. Pour voilà, retourner à ce qu'on disait au début du podcast, on s'invente des petits stratagèmes de nos jours, alors qu'avant c'était le bon sens, quoi. Hein. T'as pas de nourriture, tu manges pas. Si tu travailles pas ta terre et ton potager le matin, ben t'auras pas à manger à midi. Je me rappelle d'un ami qui était venu faire un stage ici justement à Villeneuve. Et il dormait à la maison. Il dormait à la maison, il me racontait, il me montrait des images de quand il était allé en Afrique avec vivre une semaine d'immersion avec une tribu, comment on dit, pas archaïque, mais qui n'ont pas encore connu la civilisation humaine, quoi. Et en fait, t'as des stages en immersion comme ça qui sont proposés par certains guides. Et il me disait, j'ai passé une semaine à faire de la chasse aux babouins. Il courait dans la savane et il avait sa GoPro, donc il y a les vidéos, c'était incroyable. Et le gars, c'est Mathieu, hein, je lui passe le bonjour, s'il écoute. Mathieu, il est super sportif. Il a fait Ninja Warrior quand c'était à Marseille. Enfin, le gars, il est affûté comme c'est pas possible, tu vois. Il me disait, j'arrivais pas à suivre, quoi. Ils avaient un rythme de course qui était pas possible. Parce que ils jouaient leur peau. C'est-à-dire que s'ils attrapaient pas un babouin, toute la famille, personne ne mangeait dans la tribu. Donc il fallait choper la nourriture. Alors je peux te dire que le corps, il réfléchit pas. Lui, il pensait pas au jeûne, il pensait pas à l'autophagie, quoi que ce soit à ce moment-là. Hein. C'est la survie. C'est soit on chope un babouin aujourd'hui, soit on meurt. Parce que tu voyais en plus la végétation, t'attends pas à trouver un bananier. C'était la pampa aride. À côté, la garrigue ici, c'est de la rigolade. Il y a rien à becter, sauf les animaux sauvages. Donc il courait toute la journée. Et voilà, dans cette période de survie-là, je comprends tout à fait que le corps, il alloue toute l'attention et donc toute l'énergie au système musculaire, etc. Il alloue tout ça pour trouver la nourriture. il rend un peu plus intelligent, il rend, en fait, plus intelligent, ça veut dire, il rend juste l'esprit extrêmement vif et aux aguets pour repérer quelque chose à attraper, un animal à chasser, en vue de cette récompense que sera la prochaine nourriture, le prochain repas. Et ça, c'est, voilà, c'est une preuve de à quel point on s'est complètement déconnecté, où maintenant, de nos jours, tu vas au supermarché du coin et tu as des mangues, des papayes, H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Voilà, on est obligé d'en venir encore une fois avec des stratagèmes modernes de il faut pas manger le matin, il faut attendre à midi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire, il faut. Qui c'est qui a dit il faut? C'est pas qu'il faut, c'est que juste manger quand vous avez faim. C'est juste ça, en fait, le principe. Manger à partir du moment où vous avez vraiment faim. Si vous n'avez pas faim, ne vous forcez pas à manger, et surtout ne vous forcez pas à manger un croissant avec du café. Les viennoiseries, non. C'est, faut, au bout d'un moment, faut vraiment se dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, notre temple, notre corps, c'est un temple sacré. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est parce qu'on va être respectueux de nous-mêmes et s'aimer nous-mêmes qu'on va pouvoir donner ce que l'on a, c'est-à-dire de l'amour. Il faut pas s'attendre à avoir de l'empathie, de l'amour et prendre soin du monde qui nous entoure si on ne s'aime pas avant tout soi-même. Et se respecter soi-même, c'est aussi respecter ce qu'on, voilà, la nourriture qu'on fait rentrer dans notre corps. Donc voilà, bref.
Après, t'as plein de gens qui vont dire qu'ils ont faim tout le temps. Donc s'ils écoutent leur faim, bah ils vont manger à longueur de journée.
Bien sûr, il faut évidemment progresser petit pas par petit pas. Il y a pas cette écoute-là intime de son ressenti qui sera parfaite dès le début, c'est clair, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais déjà, en prendre conscience et avancer vers ça, le jeûne intermittent peut être un outil intéressant, justement pédagogique, c'est-à-dire, bon allez, demain je tente. Même si je dois me forcer un peu et que c'est pas facile, je tente de pas prendre petit déjeuner pour voir ce qui se passe, si je suis à l'écoute de mon corps ou pas. Bon, autant ça va être très pénible. Autant, toute la matinée, vous allez dire, finesse, j'ai faim et puis j'ai envie de mon bon petit déjeuner dont j'ai l'habitude. Mais cette pénibilité-là, autant elle va vous être salvatrice sur le long terme. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte de quoi vous dépendez. Et ouais, mais moi, pour moi, quelqu'un qui est en santé, si on me demande une définition de la santé, c'est l'adaptabilité. L'adaptation. T'es capable, est-ce que t'es capable de t'adapter si on change les facteurs de ton environnement? Si tout d'un coup, je te supprime ton café, tes croissants, tes bananes, tes céréales le matin, et que t'es complètement décontenancé et que ça te met hors de toi, pour moi, t'es pas du tout en santé, hein. Même si t'es beau gosse en costard cravate. Pour moi, tu vaux que dalle. Parce que on t'enlève des trucs et t'es par terre. Donc, voilà, il faut toujours chercher cette adaptation. Pour moi, c'est, ouais, équivalent à la pleine santé.
Et du coup, là, c'est sur l'aspect mental, sur l'aspect physiologique. Quels seraient les intérêts à ne manger que deux fois par jour, par exemple, à essayer de retarder, entre guillemets, le plus possible, même si je suis d'accord, il faut s'écouter le premier repas de la journée. Tu vois, enfin, moi, tu vois, à la base, par exemple, je prenais pas de petit déjeuner ni de collation l'après-midi, donc je faisais deux repas par jour, comme toi maintenant. Et j'ai eu un cheminement inverse, je faisais 70 kilos tout mouillé, et puis je me suis mis à faire plus de sport, etc. Et donc je me suis forcé à petit déjeuner, et puis après j'ai rajouté une collation l'après-midi. La collation, j'ai toujours du mal à la manger, parce que sinon, voilà, j'étais trop maigre, tu vois. Bref, je digresse. Mais voilà. Pourquoi si donc tu vois, pour moi en fait ça serait facile de faire du jeûne intermittent parce que je fonctionne plutôt comme ça à la base.
Ouais.
Mais pour quelqu'un qui a l'habitude naturellement de manger tu vois le petit déjeuner, une petite collation à 10h puis à la fin et puis après midi encore et puis après à 16h encore et puis après à 20h encore et limite tu vois t'en as même en rentrant du bureau et ça c'est la petite consolation, le petit shoot de dopamine pour compenser leur boulot qui les fait chier. Ouais. T'as le petit morceau de fromage avec du camembert, tu vois. Donc je comprends sur le point moral, etc. Mais si tu voulais parler d'une optique de santé, pourquoi est-ce que tu leur conseillerais de manger que deux fois par jour?
Si la personne, elle fait 8 repas par jour, 10 repas par jour, mais qu'elle est la meilleure version d'elle-même, c'est-à-dire psychologiquement, émotionnellement, physiquement, mais je vais jamais lui recommander le jeûne intermittent. Mais jamais de la vie. Mais qui suis-je pour le faire? Ah oh non, faut pas que tu fasses ça. Qu'est-ce que c'est l'histoire? Non, c'est pas ça l'histoire. C'est toujours à individualiser, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes content de votre vie actuelle et, en l'occurrence, de votre physique, de votre émotion, de votre rapport à la nourriture, hein? Si vous considérez vraiment, vous avez pris du temps de réflexion et que vous considérez qu'il y a des problèmes quelque part, et là, comme tu m'as dit tout à l'heure, j'ai l'impression que je mange trop, si vous avez ce genre de réflexion-là, ben oui, il faut revoir sa copie. Il faut se dire, est-ce qu'il n'y a pas des trucs que je fais par automatisme, par habitude, mais finalement, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Il faut se poser, si vous vous posez vraiment ce genre de questions-là, là, ça peut être intéressant de tenter autre chose, mais c'est juste une proposition, le jeûne intermittent, hein, et rien d'autre. Et il y en a qui, encore une fois, parce que c'est Internet, et parce que c'est comme ça, c'est très, soit tout noir, soit tout blanc, le jeûne intermittent, c'est l'alpha et l'oméga, tout d'un coup. Ou tout d'un coup, sinon, c'est de la merde, tout le monde dit que c'est pourri, il faut surtout pas le faire. Mais qui a dit ça? Voilà. Et ceux qui ont dit ça, encore une fois, qui sont aussi absolus, pour citer encore une grande référence, Star Wars, il n'y a que les seigneurs Sith qui sont aussi absolus. Voilà. Moi, je suis dans la relativité des choses, c'est-à-dire l'adaptabilité à, au profil de chacun. Donc, si le système actuel ne fonctionne pas et que tu veux changer les choses, teste le jeûne intermittent. Mais teste! Si ça te met dans un état pas possible, mais arrête! Franchement, je ne sais pas quoi dire d'autre. Le truc, c'est qu'on est de nos jours constamment métaboliquement insultant. C'est-à-dire, notre corps, il nous envoie des signaux. Et on lui donne un truc inverse. C'est infernal. Il nous dit, il faut aller se reposer, il faut aller dormir. Et puis t'allumes les lumières et tu regardes un film. Première insulte. Première insulte au corps. Insulte à ton métabolisme. Donc, le métabolisme, il envoie la mélatonine, il envoie les hormones du sommeil, il envoie des trucs, et toi tu lui envoies autre chose. Quel animal fait ça? Le renard dans la forêt, son organisme il dit de dormir, même mon chien hein, à la maison, il a envie de pioncer, il pionce, et point barre. Par contre, il voit un oiseau dehors, il a envie de sprinter, il sprint. Et ça c'est l'adaptation parfaite. Il était en train de dormir 5 secondes plus tôt. L'être humain.
Même nous, humains, on peut facilement le comprendre. Il suffit d'aller faire une semaine de randonnée avec des potes. Tu vas marcher toute la journée. Le soir, quand tu te poses sur ta tente, tu manges un petit peu, etc. Tu joues à des cartes. Quand le soleil il se couche, tu vas te coucher. En plus, t'es crevé et tu dors très bien. Et d'ailleurs, tu passes les meilleures nuits de ta vie. Enfin, pas toujours parce que t'es parfois dérangé, mais soit. Et voilà. Mais donc là, t'es vraiment connecté au rythme circadien, enfin, à la façon dont t'es censé fonctionner.
Mais tout à fait. T'as tout dit. Donc, c'est pareil pour l'alimentation. On est sans cesse en train de voilà, parce que l'alimentation c'est terrible, parce que là si tu veux des doctrines et des guerres de chapelle, le régime machin chouette, le truc bidule, le cétogène, le truc. Donc arrivé au moment du repas, on en est à chaque fois à se demander bon, qu'est-ce qu'il faut que je mange, parce que j'ai lu que Pierre, il a dit qu'il fallait faire un jeûne intermittent. Merde, faut pas que je mange. Et puis après, j'ai lu que Rudy Koya, coucou Rudy, Rudy, il a dit il faut manger tant de grammes de protéines. Bon, il faut que je mange des protéines. Ok, je retiens. Ok. Mais régime cétogène, il faut manger du gras. Donc ça, il faut que je rajoute du gras. Enfin, tu vois, on est en train. Et l'écoute du corps, quand est-ce que ça arrive? En fait, autant t'avais pas faim, ou sinon t'avais faim, mais t'as envie juste de croquer dans un fruit et pas plus. Tu veux pas faire un gros repas. Donc on donne encore une fois, il y a une dichotomie entre l'appel du corps. Et ce qu'on lui propose, on est à chaque fois c'est une insulte, tu vois. Il nous dit je veux ça, et il nous apporte autre chose. C'est tout. Pour moi, il y a rien d'autre.
Après, je pense que c'est compliqué de faire la part des choses entre ce que notre corps nous dit et ce que nos habitudes nous disent.
Mais oui.
Par exemple, je prends un exemple tout con par rapport au sucre. Si t'as été habitué à manger du sucre toute ta vie, ou manger gras et sucré toute ta vie, bah tu peux manger gras et sucré, ça va jamais te déranger et tu vas pas du tout avoir l'impression que ton corps il dit non, c'est pas bon pour moi. Par contre, moi, par exemple, je mange jamais de sucre. Du coup, ça m'arrive quand il y a un dîner ou quelque chose comme ça, qu'il y a un gâteau d'anniversaire, bah, je mange du gâteau de dessert, tu vois. Et sur le moment, je le trouve pas forcément mauvais, même si en général, je le trouve trop gras et trop sucré. Mais voilà, pourquoi pas, tu vois, je le trouve joli visuellement. En tout cas, c'est déjà un bon point de départ. Et dans les faits, j'arrive jamais à le digérer, tu vois. Je sens qu'il me reste sur l'estomac, ça me va pas. Mais pourquoi? Parce que je suis pas habitué à manger du sucre. Tu vois, je pense que...
Ouais, je sais pas, parce qu'un gâteau, c'est pas une histoire d'habitude, hein. Je vois,
ouais, tu crois pas?
Non, je pense pas que...
En tout cas, je vois des gens qui, pour eux, enfin, ça leur pose aucun problème, tu vois.
Ah oui, mais là, c'est différent. Faut pas confondre l'adaptation de l'évolution de l'histoire humaine, qui s'est faite sur des millions d'années, avec l'atteinte du système immunitaire qui devient asymptomatique, en fait. Il y a plus de symptômes qui ressortent, ou sinon, les symptômes ne sont pas visibles. Ça, pour moi, le sucre, industriel, hein. J'entends pas sucre des fruits, etc. Même si les fruits, malheureusement, c'est plus du tout les fruits de la nature. Même les oranges que tu trouves en bio, c'est croisé, c'est extrêmement sucré par rapport aux vraies oranges qui existaient de manière endémique. Donc le sucre industriel, pour moi, l'être humain, il est pas du tout adapté, hein, et il le sera sans doute jamais. Hein. Ça, c'est tout ce qui est de toute façon produit de la main de l'homme, qu'on dit nourriture industrielle transformée. N'attendez pas que nos cellules s'y adaptent. Ça n'arrivera jamais. avant de s'adapter à un aliment, il a fallu des millions d'années à l'être humain. Donc nous, on est fait... Si, de toute façon, on dit tout bien, hein, si ça sort pas de terre, si ça tombe pas d'un arbre, si ça vole pas, si ça court pas, ne le mangez pas. C'est-à-dire qu'un paquet de chips, what? Non, une pizza, mais pourquoi, hein? Moi, ce qui me fait peur, c'est pourquoi les gens ne se demandent plus pourquoi, ils ne se demandent plus pourquoi. C'est ça qui me fait peur. C'est-à-dire que, pourquoi tu te demandes plus pourquoi? Tu vois, tu manges un truc, tu dis, bon, je me demande même plus pourquoi je mange ça, tu vois. La pizza, c'est devenu évident. Mais je me demande même plus pourquoi. Je me demande plus pourquoi. Tiens, il y a plus du tout de réflexion. Et le fait de me demander, d'arrêter de me demander pourquoi, ben, je m'y inquiète même pas. Ça, et pour moi, ça, c'est abyssal. Tu vois, c'est le truc, c'est, où est-ce qu'on en est arrivé, quoi. Bref. La nourriture industrielle et le sucre, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu disais la personne elle va manger ça toute sa vie, elle va pas s'en rendre compte. Je pense que si elle ne s'en rend pas compte, et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a une alimentation bon qui est pas parfaite, mais c'est la, elle vit une vie mais de plénitude. Elle est contente dans sa famille, dans son boulot. Elle est bien physiquement. Elle a pas d'inflammation. Elle a pas de problème articulaire. Elle fait du sport. Elle a pas de problème gastrique. Tout va bien. Et elle s'octroie une glace de temps en temps, un gâteau de temps en temps. Mais alors, tout va bien. Ça veut dire que t'as un système à la base qui est hyper résilient. Et je pense que ça, c'était la génération de nos grands-parents qui ont pu manger de la merde et voir arriver McDo dans leur vie. Mais comme c'était des troncs d'arbres au niveau immunitaire et digestif, ils ont encaissé nickel. Mais j'ai très peur des générations suivantes et surtout actuelles là, qui naissent avec des densités osseuses de grand-père, malheureusement, hein, qui sont extrêmement fragiles par rapport aux éléments pathogènes au niveau du système immunitaire, plus en plus malades, plus en plus allergiques, plus en plus de troubles intestinaux digestifs.
Tout ça, excuse-moi, je fais une parenthèse, tout ça, ça vient du fait qu'il y ait de plus en plus de césariennes, de moins en moins d'allaitement maternel, etc.
Ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça. C'est vrai que la flore bactérienne se constitue avant tout par la flore vaginale de la maman qu'elle transmet à son bébé. Donc le fait de ne pas passer par les voies naturelles fait que, t'as pas un peuplement de la même manière, mais dans un spectre plus large, encore une fois, on manque d'exposition à la volatilité. Hein, donc les souches bactériennes qui sont dans le foyer, les souches bactériennes par rapport à la vie qu'on avait avant, où il y avait des animaux de la ferme, les animaux dans la maison, où on vivait avec le chaud, le froid, et tout ce qu'on a dit auparavant dans ce podcast, faisait que, s'étant difficile, entre guillemets, créer des individus résilients. Et l'étant facile, créer des individus faibles. C'est aussi simple que ça.
D'autant plus avec des bébés où tu prends 50 000 précautions pour être sûr que justement ils soient bien dans un milieu hyper aseptisé et tout.
Mais propre, bien sûr.
Etc. Il faut pas de ça.
Qu'est-ce que diraient nos amis Seb Zimmer, Alex Chartier et Mathieu Boulet si on leur disait quand ils nous parlent de la motricité et de prendre le bébé par les mains pour le forcer à marcher. Il dit mais non, laisse-le au sol, il faut qu'il apprenne à ramper. D'abord les pieds au sol, et après décoller les genoux. Enfin, il faut qu'il apprenne la motricité, la coordination. Il faut qu'il le fasse tout seul. Il faut qu'il apprenne à buter sur un objet. Tout ça, il faut qu'il apprenne. Si tu court-circuites ces étapes-là de l'adaptation, tu facilites en fait son environnement. Tu rends son environnement facile. Tu rends l'individu faible. Et c'est la même manière, la même approche qu'on a eue avec la pensée pasteurienne. Je dois tout aseptiser, tout pasteuriser. Tout j'avais lisé au maximum. Si vous voulez lire un bon livre par rapport à ça, c'est le bouquin du docteur Mouton, comme l'animal, c'est écrit, qui a prouvé que, à partir du moment où on a introduit, juste ça, l'eau chaude dans les foyers, c'est-à-dire ne plus se laver les mains à l'eau froide, mais à l'eau chaude, il y a une baisse de l'immunité, mais un truc de fou. C'est-à-dire que l'eau chaude tue beaucoup plus les bactéries, donc les gens se rinçaient plus les mains à l'eau froide, mais à l'eau chaude, douche à l'eau chaude, beaucoup moins de bactéries dans le foyer, un système immunitaire beaucoup plus faible. Donc rien que le fait là qu'on passe la journée les pieds dans l'herbe tous les deux à discuter, on est en train de se renforcer parce qu'on est exposé à plein de trucs qui volent, des insectes, des machins, des trucs. Et tu compares ça à la vie à Paris. Moi j'ai vécu 6 ans au Japon, dont 3 ans à Tokyo. Donc c'est vrai que même si Tokyo, on s'en fait une mauvaise image, hein, c'est beaucoup moins pollué qu'à Paris, beaucoup moins de densité de population. C'est beaucoup plus vert que ce qu'on pense. Ben c'est quand même, t'es entouré de béton. Hein. par rapport à là où on est avec les cuicuis des oiseaux. Donc, encore une fois, c'est du bon sens tout ça, c'est contact avec la nature.
Bon, super. Écoute, je suis totalement en phase en tout cas avec tout ce que tu dis. C'est hyper intéressant. Je vais juste revenir un petit peu sur le jeûne intermittent, avec deux questions plus peut-être plus techniques. La première, si je veux garder le même bilan calorique, on va dire, sur ma journée avec deux repas qu'avec quatre, je vais devoir faire deux plus gros repas. Ça paraît être du bon sens. Pour y arriver, probablement que je mettrai peut-être plus de lipides qui vont un pouvoir calorifique plus important. Il y a deux choses, deux pensées que j'ai par rapport à ça, deux questions que j'ai par rapport à ça. La première, c'est est-ce que tu peux manger quand même autant de fruits et de légumes que tu ne le voudrais, parce qu'ils ont un pouvoir de satiété important et malheureusement un pouvoir calorifique qui est plus faible. Et la seconde, c'est est-ce que le fait de, entre guillemets, surcharger ton système digestif avec 1500 calories, enfin bon, je compte pas mes calories, mais je pense que sur ma journée, je vais en manger 3000-3500, donc c'est quand même beaucoup, parce que je m'entraîne tous les jours. Est-ce que le fait d'avoir deux repas de 1500-1600 calories, ça va pas justement me faire un pic de glycémie? Bon, je pense que de toute façon, il y en aura un, et puis il sera peut-être un petit peu amoindri par le fait qu'il y ait plus de lipides. Mais est-ce que ça risque pas de saturer mon système digestif, le fatiguer, et justement me sentir peut-être hyper éveillé, hyper en forme le matin, parce que justement, je serai en charge de bouffe, comme tu l'as dit tout à l'heure, là je suis dans le stress et le corps il a besoin de trouver de la nourriture, donc il va peut-être être beaucoup plus aiguisé, et l'après-midi en mode digestion à fond dans le parasympathique et je suis amorphe sur ma chaise de bureau.
C'est des questions très légitimes et qui reviennent souvent, c'est normal.
Pardon.
Mais non, tu fais bien de les poser, et je pense que beaucoup de gens se les posent. Le naturopathe, c'est, pour moi, c'est la science de l'observation. À la base, les naturopathes, ça vient vraiment de l'école hippocratique. Et Hippocrate, il observait tous les signes cliniques. On fait de la morpho-analyse, déjà. On regarde, tu vois, la couleur de la peau, la densité osseuse, la forme de la mâchoire, ce genre de choses. Mais ce qu'il faisait avant aussi, les thérapeutes du village, le soigneur du village, c'est sentir et goûter l'urine des gens, regarder les selles et observer les selles. Et s'inquiéter de tous les autres signes cliniques, c'est-à-dire ta peau, comment tu digères, etc. Si tu me dis que tu fais un repas de 3000 kilocalories, carrément, un seul repas, mais aucun problème de digestion, aucun coup de mou derrière, pas de fatigue, les selles sont bien moulées, c'est ni trop liquide, ni trop dur, tu retrouves pas d'aliments pas digérés dans tes selles.
Mais
encore une fois, qui suis-je pour te dire de faire autrement, quoi. Apparemment, ton système, il s'adapte parfaitement. Bon, t'es sans doute un, un animal un peu à part, parce que ça t'arrive à t'accoutumer de cette pratique. Mais apparemment, pour toi, ça fonctionne super bien. Et les dernières études nous prouvent bien que, apparemment, on assimile seulement 30% de ce qu'on bouffe. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans ton assiette, 70% repart dans les toilettes comme c'est rentré. Donc à partir de là, le nombre de calories, c'est bien sympa, mais ça veut pas dire grand-chose. Le nombre de protéines aussi, c'est avant tout, est-ce que t'as bien mastiqué? Est-ce que t'as une bonne flore bactérienne pour décomposer ces aliments-là? Est-ce que ça rentre bien dans ton corps, dans ton sang? Et une fois que c'est dans ton sang, là oui, est-ce que ton insuline, est-ce que le glucagon, est-ce que les autres hormones qui gèrent l'utilisation des ressources, le stockage ou le déstockage fonctionnent bien? Là, on va s'en inquiéter. Donc tu vois, il y a plein de paramètres en fait à tout ça. Si tu testes ton truc pour manger tes 3000 kilocalories sur seulement deux repas, par contre le gros repas, ça t'explose le bide, ça fermente de partout, ça te donne des renvois, ça te donne des gaz, etc. Mais là, hop, deux stratégies. Je divise en trois repas, je fais une collation au milieu des deux, donc je fais des repas plus légers. Autre stratégie, c'est vrai, j'enlève ce qui est fibreux. J'enlève peut-être, je réduis fruits et légumes, parce que c'est vrai que c'est ce qui prend de la place, et c'est ce qui va apporter très vite de la satiété. Donc peut-être que je me concentre un petit peu plus, je revois le contenu de l'assiette en fait. Soit je revois le timing, soit je revois le contenu. Et le contenu, ouais, c'est vrai que t'as certaines hormones, je pense surtout à la cholécystokinine, la CCK, qui est sécrétée au niveau du duodénum, qui gère beaucoup, avec qui envoie un rétrofeedback en fait, un signal au cerveau pour dire hop, on a eu assez d'acides aminés et d'oméga 3, c'est surtout ça en fait qu'elle check. Ces deux-là, c'est bon, on arrête de manger, on a la satiété. Donc j'irai plus, tu vois, si on parle du contenu de l'assiette et qu'on veut vraiment rester dans ces deux repas-là, Sur des produits riches en oméga 3, des produits riches en bonnes sources de protéines, que ce soit animal ou végétal. Si t'es vegan, tu peux trouver des équivalents quelque part. Voilà. Donc des produits de qualité. Et si c'est vraiment un problème de ballonnement, ventre qui, voilà, tu sens pas bien, lourdeur, etc., bah, réduire un peu fruits et légumes. À partir de là, si tu fais tes propres expérimentations, tes propres tests, je ne vois pas comment, en 3 semaines, tu peux pas trouver ta formule qui te convienne, en tout cas à ce moment-là. Quitte à la revoir l'année prochaine.
Est-ce que c'est pas dommage de réduire un peu les fruits et légumes quand on connaît leur pouvoir antioxydant, tu vas me dire que ça veut rien dire, c'est que oui. Le stress oxydatif, je m'en doutais.
Ouais, c'est dommage si c'est dommageable en tout cas si ça te rend malheureux. Hein? Moi c'est uniquement ça qui m'intéresse. Parce que sinon le fruit, on lui a rien demandé, il est là, il est dans son assiette, il est ni bon ni mauvais, hein, il est neutre, hein. Faut bien comprendre que les aliments ils sont neutres, hein. C'est toujours la réaction que ça a sur le corps qui est importante et sur l'esprit. Donc si la personne elle dit putain, cet été il y a des figues, puis les figues j'adore ça, c'est mon fruit préféré, je peux pas en manger parce que Pierre il a dit qu'il fallait pas en manger pendant le repas, et puis les combinaisons alimentaires etc., et que ça la terrasse quoi, et ça lui fout une angoisse pas possible, ben là on a tout faux. Voilà. Si par contre la personne dit ouais bon c'est vrai j'aime bien les fruits, mais en fait, si je croque dans une fraise, ça me suffit, quoi. Je veux juste le goût fruité et j'aime ça. Moi, c'est mon cas. C'est vrai que je peux très bien me satisfaire de... Si j'ai envie d'une touche sucrée, une fraise, deux fraises, ça peut me suffire. Et là, cette période des fraises, et c'est vrai, tu vois, j'ai pas besoin de m'en gaver, quoi. Et voilà. Donc, j'en ai pas besoin de plus. Mais on est tous différents. Il faut juste pas être miséreux, quoi. Donc, je sais très bien que c'est pas facile. Parce que c'est une fine ligne de réflexion à avoir par rapport à ce que demande son propre corps, ses propres pulsions et envies, et tout ce qu'il y a derrière à côté dans ce qui se dit sur Internet, les magazines, etc. Je sais bien que c'est pas facile, mais c'est parce que c'est pas facile que c'est beau. Si c'était facile, ce serait pas intéressant.
Non, bah clairement. Après, je pense que voilà, c'est comme tout, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Si t'es à l'écoute de toi, que tu fais des tests, des expériences, et comme tu le dis très bien, il y a pas de formule magique. Par contre, tu peux toujours tester, faire expérience. Le jeûne intermittent plaira peut-être pas à tout le monde, mais tu peux le faire le test pendant. Je pense que 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est peut-être pas assez parce que, à mon avis, les premiers jours, t'as quand même l'habitude de manger le matin, etc. Et donc, il te donne une sensation de faim qui est peut-être pas réelle. Mais je pense qu'après une semaine, probablement, tu pourrais être plus à l'écoute de tes sensations. J'ai encore une dernière question technique sur ce jeûne intermittent lié au sport. On parle souvent dans les sports de force de fenêtres anaboliques où la synthèse protéique serait plus importante dans l'heure qui suit l'entraînement. Et la coronaire dans les sports d'endurance, c'est la reconstitution des stocks de glycogène qui améliorerait la récupération. Moi, je m'entraîne tôt le matin. Comme je pense d'autres personnes, si je prends mon premier repas à midi ou 13h, est-ce que ça risque pas d'amoindrir mes performances sportives d'une part, et d'autre part, est-ce que ça risque pas de diminuer mes capacités de récupération?
C'est
individuel.
Encore une fois, je vais dire ça dépend, mais moi j'aime bien m'inspirer des grands messieurs qui m'ont toujours j'ai l'impression qu'ils m'ont transmis beaucoup de choses, quoi. C'est vrai que j'étais un grand fan de Charles Poliquin, feu Charles Poliquin. Son descendant de cœur, on va dire, c'est Christian Thibaudeau, et là encore lui aussi il parle beaucoup justement de comment pratiquer le jeûne, etc. Il y a plein d'autres messieurs et je sais plus qui c'est qui citait une étude il y a pas longtemps, ça me fait penser à ça, par rapport à justement cette fenêtre anabolique, et qui recommandait justement que si jamais, je sais plus qui c'est, bon j'ai un trou de mémoire, si vous faites un sport de force et vous allez à la salle de muscu pour prendre du muscle, parce que le travail de force et le travail d'hypertrophie musculaire c'est quand même assez différent, mais bref, vous faites votre sport relativement intense le matin à jeun, c'est sûr que avoir un repas qui soit dans les 1 heure, 2 heures, 3 heures qui suivent cet effort, c'est que ça semble être optimum. Donc, je dis ça par rapport aux gens qui me parlent souvent du un repas par jour et qui mangent que le soir. Et cette question, elle me dit, mais si je m'entraîne le matin, là, c'est vraiment très loin de mon sport. Et donc, ma fenêtre anabolique, tout ça, est-ce que mon corps, ça peut être trop de stress? Ouais, je recommanderais pas trop. En tout cas, peut-être pas pour les sports d'endurance, peut-être qu'on peut s'en accommoder. Par contre, si vraiment tu passes du temps à la salle, tu pousses fort, tu pousses lourd, je ne mettrai pas le repas qui suit trop loin. Voilà. Mais voilà, je vous dis ça, mais je suis sûr qu'il y en a certains qui vont me sortir 25 exemples contraires, pour qui ça marche très bien, qui arrivent à construire du muscle. Moi, je change régulièrement ma copie. Pendant le premier confinement, par exemple, j'étais à la maison parce qu'on pouvait pas sortir. Et je tournais en rond, donc je m'entraînais vraiment tous les jours comme un barbare. Bon, ben, mes deux repas par jour, ça marchait plus. J'avais faim au milieu de l'après-midi. Ben, je me suis rajouté une collation dans l'après-midi, alors que ça faisait je sais pas combien d'années que j'ai pas pris un goûter, entre guillemets, quoi, tu vois. Donc, j'ai fait trois repas. Et ben là, depuis septembre dernier, donc ça fait quand même un bail, on est en mai, bientôt en juin, que je suis repassé sur deux repas par jour. Mais je sens que là, je reprends à avoir un petit creux, tu vois. Peut-être les journées rallongent, etc. Les rythmes changent. Donc peut-être repasser sur trois repas, toujours dans la fenêtre 12h-18h que j'aime bien utiliser, tu vois. Donc il faut revoir sa copie, parce que notre corps est à l'image de l'environnement. Il est sans cesse en adaptation, parce que l'environnement change sans cesse au niveau des saisons, au niveau du cycle journalier, au niveau du cycle lunaire, au niveau de tout ça. Donc pas de réponse préconçue, je suis désolé. Il faut tester, expérimenter.
Ça ressemble à quoi, une de tes assiettes?
Ah, c'est très varié, hein. Moi, je mange de tout. Je suis passé partout. C'est vrai que j'aime bien dire que je suis mon propre laboratoire, mais j'ai testé le régime carnivore, c'est-à-dire produits animaux uniquement. Mais j'ai fait ça deux fois deux mois.
C'est marrant, c'est très contre-tendance.
Et c'est clair. J'ai fait le régime cétogène strict pendant six mois. Plus, je veux dire, laxiste, c'est-à-dire que ça se rapprochait plus du low carb pendant plus de deux ans, plus de deux ans. Maintenant, si je dois mettre une autre étiquette, ça se situerait plus. J'étais vegan aussi pendant cinq ans, vegan cru. Hein. Donc tu vois le truc poussif, cinq ans.
Non, mais c'est marrant de mettre ça en corrélation avec le régime carnivore.
C'est ça, exactement. Tout ça pour dire que moi, je pense que la vie, elle ne s'exprime que dans les extrêmes. Et ça passe aussi par le comportement. Et ça me fait penser à une remarque qu'on m'a fait il y a pas longtemps sur mes podcasts, où je fais des podcasts qui s'appellent les podcasts de l'antifragilité, où je parle avec un micro et il y a pas de musique, il y a que moi qui parle, il y a pas d'invité, c'est très calme, etc. En plus, j'enregistre généralement vers 6h du mat. Donc je suis un peu, tu sais, la voix comme ça. Et le générique,
c'est
et la fin.
Pro.
Ouais, c'est ça, c'est clair. Il y en a qui me disent qu'ils s'endorment et tout, hein, qui font des méditations avec. Mais tant mieux. Mais le générique du début et de la fin, c'est un rappeur, un ami, qui s'appelle Nick MC, et c'est vachement péchu. Tu vois, donc la musique de début et de fin, c'est très, en opposition avec le rythme du podcast. Et finalement, je me dis, en fait, ça me représente très bien, ça. Tu vois, ces deux extrêmes-là. J'aime beaucoup cette image-là d'expérimenter les deux extrêmes. Donc, oui, je suis passé un petit peu partout dans le régime alimentaire, mais c'est quand même dans le fait que je me suis engagé sur une voie, c'est d'aider autrui. Et pour aider et donner des conseils, il faut quand même que je sache de quoi je parle. Et pour ça, je veux que parler de ce que je connais. Pour citer encore Maurice Daubard, il faut parler de son propre jardin, c'est-à-dire de ce qu'on a expérimenté soi-même. Et donc, actuellement, mes assiettes, là, on est au printemps. Donc, il y a quand même les asperges, les fraises. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a les poivrons et les courgettes. Là, je cite ce que j'adore. Vraiment... Je pourrais vivre de poivrons et de courgettes et de tomates. Et les tomates. Tomates cerises. Oh là là. Donc, c'est vrai que il y a toujours une base végétale très légumes. J'adore. Je viens du sud de la France, donc c'est vrai que ça tourne quand même beaucoup autour des légumes que vous allez retrouver dans la ratatouille, typiquement. Je mange du poisson et de la viande. Donc, il va y en avoir aussi. Les fruits... Il peut y en avoir, mais ça va être des fruits de saison, et comme j'ai dit tout à l'heure, ce sera pas forcément en grande quantité. Voilà. Il n'y a pas de... Comme Taleb, j'utilise l'effet Lindy, c'est-à-dire que je ne mange rien qui n'était pas là il y a 10 000 ans.
Du coup, pas de glucides, pas de riz, etc.
Non, je suis pas très céréales. Je le digère pas bien, ça le fait pas.
D'accord.
Je suis le contraire de toi, en fait, je prends facilement du poids. Moi, j'ai... faut m'imaginer avec plus de 20 kilos. Actuel, tu vois. J'ai été proche de l'obésité, tu vois.
Quand, on quand, dirait pas, ouais.
Quand j'avais 15 ans. Donc je prends très facilement du poids. Je réagis mal à ce qui est quand même très chargé en glucides. Donc Voilà. Et en plus, au niveau digestif, ça passe moins bien. Donc il n'y a pas de céréales. Il n'y a pas de légumineuses. Donc pas de lentilles, pas de pois chiches, etc. C'est des produits avant tout qualitatifs, c'est-à-dire locaux, bio, du petit producteur ici à Villeneuve. On a la chance d'avoir plusieurs marchés par semaine. Donc je sais comment ils travaillent. Je sais c'est des agriculteurs bio, raisonnés. Comment ils élèvent leurs bêtes aussi. Je me renseigne pour pas qu'il y ait de cochonneries dedans, parce que là encore, faut vraiment faire attention. C'est que toutes les études scientifiques qui sont faites depuis 50 ans, quand ils nous disent sur telle sorte d'alimentation ou aliment, c'est fait avec la nourriture que vous trouvez dans les supermarchés. Hein, on a pris un panel de 150 personnes et ils ont mangé tel régime pendant 20 jours et voici les résultats. Comprenez bien, ça veut dire qu'ils ont pris les premiers prix de Carrefour et de Auchan et de ce que vous voulez. Donc ça veut dire de la qualité de merde. Et donc là, oui, en ce moment-là, c'est clair que ça va donner tel ou tel résultat. Idem pour les légumes. Si vous me dites pas d'où ça vient, ça veut dire que la personne, elle mange pesticides et fongicides. Elle mange du poison. Donc, pour moi, l'étude, elle vaut que dalle. Donc, faut bien comprendre, voilà, remettre à leur juste place la pertinence, en fait, de ce genre d'études qui sont faites. Il y a aucune étude qui m'a dit, on a pris 20 personnes et on leur a fait manger les légumes du potager. Pendant 2 ans. Ça, je les ai pas, ces études-là. Et elles n'existent pas. Donc là encore, il y a des choses qu'il faut remettre en perspective.
Ouais, bah écoute, oui, non, ça c'est sûr. Choisir ces produits, c'est hyper important. Moi, j'ai un panier bio de petits producteurs locaux. C'est très important pour moi d'avoir du bio et puis du local aussi. Et j'essaie de manger un tiers de protéines animales, un tiers de protéines végétales et un tiers de poisson. Pour le poisson, c'est plus compliqué, mais pour les protéines animales, justement. Le bien-être animal, la façon dont les vaches ont été élevées, ouais. Etc. Là, il y a pas longtemps, tu vois, j'étais en week-end en Lozère et je voyais les vaches sur les plateaux de l'Aubrac en pleine nature avec un beau poil, etc. Ouais. Des grandes étendues à perte de vue. Je me suis dit, putain, elles sont heureuses ces vaches-là. Je suis content de les manger. À côté de ça, tu vois, ma mère habite en Bretagne. Tu les vois parfois parquées les unes à côté des autres. Ou le veau, par exemple, j'ai appris que le veau, il voyait jamais la lumière. Ils étaient parqués dans des trucs hyper petits pour éviter que leurs muscles se développent et que la viande reste tendre. J'ai pas envie d'en manger, tu vois. Moi, ça me déprime. Ouais. Donc c'est clair que. D'ailleurs, je pense que quand tu considères ton corps comme un temple, comme tu aimes à le dire, et que tu apprécies cette connexion avec la nature, c'est difficile de pas aussi avoir une conscience écologique, une conscience du bien-être animal. Alors moi, je suis pas du tout dans le véganisme, etc. Je mange de la viande, du poisson, mais pour moi, le bien-être animal, le fait qu'ils aient été bien traités dans leur vie, etc., c'est hyper important.
Ouais, non, clairement, je comprends tout à fait ceux qui ne mangent plus de produits animaux. Par justement idéologie, en se disant voilà, je veux lutter contre la maltraitance animale, et ça je le respecte énormément, et ça a été l'une de mes démarches.
Et pourquoi t'en es sorti?
Par appétence, juste parce que j'en trouvais, je n'avais plus envie pendant un moment, et puis l'envie m'est revenue, et je pense que on peut vraiment être respectueux de tout ça si on vote avec sa carte bleue et avec son argent, en la plaçant dans le petit producteur du coin, encore une fois, qui respecte ses bêtes, qui les élève respectueusement, qui les tue quand il faut les tuer, de la manière dont il faut les tuer, qui laisse les bébés vivre avec leur maman longtemps. Il y a rien de plus déchirant que de voir les vidéos sur YouTube où ils prennent les veaux à leur mère, et la mère, la vache, pleure littéralement, hein. Elle court après le camion et tu la vois pleurer, hein. C'est bouleversant. Donc je pense qu'on est en train de sortir de ce système là parce que ça, voilà, ça devient viral, ça devient vraiment ça rentre dans les consciences. Là encore, le travail de mon cher Gunther Paoli, maître à penser et mon ami, ce qu'il fait, c'est extraordinaire, et dans plein de pays il a montré que élever respectueusement des animaux en les faisant cohabiter, les poules avec les cochons, tout le monde, on augmente la qualité de la viande, on augmente leur longévité, on augmente la rentabilité du producteur, on augmente absolument tout, et on régénère les écosystèmes. Ça s'appelle l'économie bleue, pour ceux qui veulent se renseigner, de Gunther Pauli. C'est en train de changer le monde, et J'aurai plein de choses à dire bientôt. On refera un podcast où je te raconterai des trucs.
Non, mais ça m'intéresse vachement. Justement, j'avais envie, quand tu m'as parlé en intro des entreprises dans l'environnement, etc., que tu mettais en œuvre, j'avais envie d'en parler avec toi. Mais bon, c'est difficile d'aborder tous les sujets. Mais c'est, donc, c'est vrai que ça pourrait faire l'occasion d'un deuxième épisode. Je te propose de terminer rapidement sur cette loi de l'Hormez. Donc, il restait deux pans qui sont l'entraînement physique, sportif et la respiration. Est-ce que t'as des choses particulières, spécifiques à m'en dire que tu voudrais évoquer? Tu vois, je l'aborde comme ça parce que bon, ça fait 1h42
quand même
qu'on parle. Donc sur le sport, tu vois, j'ai déjà parlé par exemple avec Rudy Koya, avec Ken Chantou sur la préparation physique, sur la respiration, je vais avoir Léo de Inspire Potentiel que tu dois connaître.
Mais oui, j'ai préfacé son livre.
Mais je sais, je l'ai lu aussi du coup j'ai eu l'occasion de m'en apercevoir. Je me suis dit putain, le monde est petit quand
c'est
même.
Clair, c'est clair. Ben, c'est moi qui ai présenté Léo à Fabien Moine, qui a les éditions XUV.
D'accord.
Et c'est les éditions XUV qui publient le livre.
Oui.
Et Léo m'avait demandé de faire sa préface, donc j'en étais très honoré et heureux parce que c'est devenu un ami. On s'est rencontré en stage. J'adore sa pédagogie. Vraiment.
Ben, écoute, c'est parfait. Mais donc, est-ce que t'as quand même deux mots à nous dire sur ces deux autres lois de l'Hormez, dans la façon dont toi tu les pratiques?
Bien sûr, la respiration c'est ma marotte. Hein. C'est vraiment, comme je dis souvent, si je devais aller sur une île déserte et qu'on me demande de retenir qu'une seule technique parmi toutes les techniques de l'Hormez, de tout ce que tu veux, etc., je prendrais la respiration parce que tu peux tout faire avec, tu peux tout contrôler, tu peux contrôler le système nerveux hormonal. Le jour où tu te sens pas bien, tu te mets dans ta bulle, tu te concentres sur ta respiration. C'est fabuleux. Hein. C'est pour ça que Wim Hof, pour le citer encore, il dit bien hein, "Just breathe, motherfucker". C'est juste respirer. Je traduirai pas à la suite. Il y a tout dans la respiration. Le yoga nous le dit bien. Celui qui maîtrise sa respiration maîtrise sa vie. C'est très mal compris. C'est en train de rentrer dans les mœurs. C'est en train de rentrer à haut niveau. J'en suis très content parce que au centre SSCS Training où j'interviens, ben voilà, on coach des prépas physiques de grands clubs de foot, très très grands clubs de foot. On coach des prépas physiques de champions olympiques, ce genre de choses, et je leur apprends à respirer. Et pour eux, c'est tout nouveau, et ça me fait vraiment plaisir de les voir après bosser dans leur coin avec leur champion autour de ça. C'est en train vraiment de percer, et Léo fait partie des figures de proue qui font avancer les choses. C'est un secteur magnifique. Comment l'expliquer en quelques mots? C'est trop vaste, mais tu vois, si on prend qu'un seul facteur qui est très mal compris, c'est l'importance du CO2, du dioxyde de carbone. Il y a, tu vois, encore l'importance de bouquiner les principes de la physiologie avant de parler, et pour comprendre en fait une pratique, le pourquoi d'une pratique. Le CO2, c'est, il y a un effet qui s'appelle l'effet Bohr, B-O-H-R. Qui est connu en fait de n'importe quel médecin, hein, en fait c'est dans tous les livres de physio, hein, c'est très connu, c'est que le facteur principal qui fait relâcher l'oxygène contenu par l'hémoglobine qui est sur les globules rouges, c'est-à-dire vos globules rouges transportent l'oxygène, ce qui donne l'oxygène aux cellules, c'est la présence de CO2 dans le sang. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a du CO2 dans le sang que l'hémoglobine va être déformée. Elle va relâcher l'oxygène et les cellules vont pouvoir respirer. Si vous ne savez pas accumuler et tolérer le CO2 en vous et que vous hyperventilez tous les jours, constamment par la bouche par exemple, eh ben vous allez avoir une tolérance très faible au CO2. Donc vous allez savoir l'accumuler que très peu, donc vos cellules vont très peu respirer. Et une cellule qui ne respire pas dans le corps, je vous fais pas un dessin, ça vous conduit vers des troubles métaboliques très très forts. Parce que un problème d'apport de glucose, un diabète quelconque, Alzheimer qui est qualifié comme un diabète niveau 3 parce que apparemment ce serait aussi un problème d'apport de glucose au niveau des neurones, une résistance à l'insuline en tout cas. Tout ça, c'est sûr que le glucose est important, mais l'oxygène, la respiration cellulaire, ça on peut pas s'en passer, on peut s'en passer beaucoup moins facilement que du sucre. Savoir respirer calmement, retrouver cette connexion-là avec sa respiration, ça peut nous aider à gérer notre système nerveux, notre gestion émotionnelle. Ça peut nous aider dans la performance si on est sportif. C'est sans fin, la respiration. Vraiment. Donc, je ne peux que vous recommander de prendre conscience de ça. C'est gratuit. C'est des outils qui sont à la portée de tout le monde. Le yoga essaie de nous le transmettre depuis des millénaires, mais le problème, c'est que c'est une culture qu'on connaît pas trop, qui utilise des termes qui peuvent nous sembler un peu exotiques, donc parfois un peu rebutants. Mais maintenant, en Occident, il y a plein de gens comme Brian McKenzie, comme Patrick McKeown, qui font, voilà, alors bon, c'est en anglais, certes. En France, j'essaye de défricher le terrain en traduisant des choses. Léo est là aussi. Il y a pas mal de personnes quand même en France qui parlent de la respiration, donc ça commence à bien percer. Je ne peux que vous recommander de vous y intéresser parce que ça vous apportera énormément de choses. Le mouvement, l'exercice physique.
Juste oui. Sur la respiration, si t'as une technique simple, facilement applicable, que nos auditeurs pourraient mettre en œuvre dès demain dans leur journée.
Ouais. Alors très simplement, je pense qu'on connaît tous à peu près. Je dis ça, en fait, peut-être pas. Hein, peut-être que vous connaissez pas la respiration carrée, box breathing. Donc les quatre pans de la respiration que sont l'inspire, la rétention poumon plein, l'expire, rétention poumon vide. Vont être faites de manière égale, ça c'est la respiration en carré. Ben là je vous propose une variante où j'appelle ça la respiration par vague, c'est que tour par tour vous allez doubler un des pans de cette respiration. Donc par exemple vous commencez par doubler le temps d'inspire, vous pourrez faire par exemple 10 secondes d'inspire. Je fais 10 secondes d'inspire, 5 secondes de rétention en poumon plein, 5 secondes d'expire, 5 secondes de rétention en poumon vide. Puis le tour d'après, je passe au deuxième. Donc je double ma rétention en poumon plein. Je fais 5 secondes d'inspire, 10 secondes de rétention en poumon plein, 5 secondes d'expire, 5 secondes de rétention en poumon vide. Et comme ça, je tourne. Et je fais varier à chaque fois le pan de la respiration que je double. Ça a plusieurs vertus. Déjà, comme une respiration en carré, on va calmer le système. Rien que le fait de se focaliser de toute façon sur un élément comme la respiration, c'est une sorte d'entrée en état méditatif de toute façon, hein. Mais ça va surtout permettre de repérer des points faibles. Et ça, j'aime beaucoup, en fait. C'est-à-dire que y a plein de choses qui gèrent la respiration. La cadence, la rythmicité, c'est des groupes de neurones au niveau du tronc cérébral et du bulbe rachidien qui sont différents. Tu as le groupe respiratoire ventral, le groupe respiratoire dorsal, le pontin aussi. Et ces trois groupes-là, il y en a un qui gère plutôt... la rythmicité, c'est-à-dire inspire-expire. L'autre, la cadence et la coordination. Par exemple, quand je suis en train de te parler, là, il faut que je fasse plein de petites inspires, plein de petites expires. Il y en a un, il a des branches directement avec le nerf phrénique et les nerfs intercostaux pour contrôler le diaphragme et les muscles intercostaux, donc c'est-à-dire vraiment la motricité de la respiration. Et on a... tout ce qui est biochimique, c'est-à-dire résistance au CO2, tolérance en tout cas au dioxyde de carbone qui s'accumule dans le sang, etc. Donc, quand on va tourner dans notre petit carré comme ça, et on va doubler tour à tour les pans de la respiration, on va pouvoir voir si l'inconfort, il est beaucoup plus présent dans le fait de doubler l'inspire. Par exemple, j'arrive pas du tout à contrôler mon inspiration, j'inspire d'un seul coup et en fait, je suis tout de suite plein et je maîtrise pas en fait la motricité. Donc ça, c'est un premier facteur, tu vois. Bah, notez-le. Là, dans votre carnet d'entraînement, vous dites bon, bah, l'inspiration, visiblement, j'ai aucun contrôle. Tout se fait, voilà, comme ça, de manière brutale. Ou sinon, l'inconfort, il vient vraiment à poumon vide. C'est-à-dire, c'est le CO2 en fait qui s'accumule en moi. J'en ai aucune tolérance. À partir du moment où je vide mes poumons, je pars en apnée, il y a plus personne. C'est de la panique totale. J'ai besoin de respirer. Ah, bah ça, c'est un indice super important. Ou encore, ça va être sur le contrôle de l'expire. Là encore, j'ai pas de contrôle neuromoteur sur pouvoir expirer longuement. Je souffle tout d'un coup par la bouche. Enfin, j'ai pas de contrôle. Tout ça, c'est des indicateurs. Donc, j'aime cette technique-là parce que c'est à la fois un test et puis un renforcement aussi de tout ça. Tu peux vraiment te challenger. Dis bon, je fais pas un carré de 5-5-10. Je fais un carré de 10-10-20, voire 15-15-30, où je le fais en marchant. Tu vois, tu te challenges après derrière. Donc, il est déclinable, cet exercice, je l'aime beaucoup, en plein de variantes. Voilà.
Je testerai dans la voiture en rentrant.
Attention alors, hein. Petit challenge. Hein.
On va pas tout de suite faire le 15-15.
C'est clair, après avoir m'accusé de pas donner les bons conseils pour ta fille, tu vas avoir un accident par ma faute. Bravo.
Et du coup, le dernier point, donc, c'était le mouvement.
Ouais, le mouvement, j'ai pas grand-chose.
Le mouvement, c'est la vie.
Voilà, le mouvement, c'est la vie. Hein.
On résume bien comme ça.
C'est clair. Non, non, moi, je suis de l'école d'Ido Portal. Il faut bouger. J'ai écouté encore une conférence de Stéphane Diagana qu'il a donnée pour Le Point, je pense, il y a pas longtemps, où il disait que en 50 ans, notre activité physique a été diminuée par 8, je crois. C'est colossal. Un corps en santé, c'est un corps en mouvement. Voilà, on retourne sur la phrase si ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Si tu n'utilises pas tes mobilités articulaires, tes muscles, etc., c'est normal que le corps s'encrasse et voilà. Donc bon, faut bouger de la manière que vous voulez. Faites ce qui programmez quand même des choses qui vous font kiffer, quoi. Hein, des trucs que vous forcez pas à faire des pompes si c'est pas votre truc. Moi, ça me fait kiffer. Moi, j'aime ça. J'aime pousser de la fonte. J'aime faire des pompes en poirier. J'aime faire plein de trucs. Mais il y a des gens, c'est pas leur truc. Eux, ce qu'ils veulent, c'est jouer. Ils veulent jouer au tennis. Ils veulent jouer au foot. Ils veulent. Bah, faites ça. Ne vous forcez pas à faire des squats. Voilà. Là encore, il y a beaucoup de dogmes qui traînent où il faut faire du back squat. Il faut faire des trucs. Ouais. Si ça te plaît, si ça sert à une pratique principale. Si ça te plaît énormément et que t'en fais ta pratique principale et que t'es l'homme le plus heureux du monde, bah tant mieux. Mais si tu te forces à le faire parce que t'as entendu qu'il fallait le faire, moi ça me plaît moins là.
Être en bonne santé c'est bien, être heureux c'est pas plus mal.
Mais exactement, tu as tout dit.
Et justement, j'en profite pour citer. On parlait avant le podcast. Je te parlais des vêtements Seagull que j'avais, qui ont révolutionné ma vie de bureau parce que j'ai. Malheureusement, je peux pas être aussi souvent dehors que ce que je voudrais, et donc j'ai un travail plutôt sédentaire devant un ordinateur, et pour autant, j'essaie d'intégrer autant que possible du mouvement tout au long de ma journée, en plus de mes entraînements de sport le matin et de mes promenades avec mon chien. Voilà, j'en parle souvent en podcast, j'utilise un minuteur Pomodoro pour me penser à me lever toutes les demi-heures, et puis aller marcher un petit peu, faire quelques étirements, la mobilité active, des squats, de la respiration, de la neuroposturologie, je varie, tu vois. Et donc, avant, je me sentais engoncé dans mes vêtements et je pensais que c'était une fatalité. Et depuis que j'ai découvert cette marque, eh ben, je me suis aperçu que c'était possible d'être bien habillé et de bouger tout au long de la journée. Et voilà, je leur fais un peu de pub parce que franchement, ça a changé ma perception de ma vie de bureau.
Mais tu sais quoi, c'est vachement important ce que tu me dis parce que pour les projets avec Gunther Poli, là, on doit se rendre au Japon bientôt. On va faire un truc au niveau de l'environnement qui va être colossal et qui va, grosso modo, il a mis au point un bateau. Gunther, il a été en interview sur Thinkerview. Tu connais cette chaîne YouTube?
Non.
Thinkerview, c'est une chaîne qui a, je crois, 2 millions d'abonnés, ou 1 million, je sais plus, c'est énorme. Où il y a eu Idriss aussi dessus. Et il parlait de ce bateau, justement. C'est le seul bateau, ça va être le seul bateau, bientôt. Il est déjà en train de dépolluer les mers du plastique, en fait. Il dépollue le plastique, etc. Mais ça va être bientôt le seul qui va pouvoir dépolluer les nanoplastiques. Microparticules de plastique. Bref. Autour de ce projet du bateau, on doit se rendre au Japon bientôt. Le Japon, pour y avoir vécu 6 ans, quand tu fais des rendez-vous protocolaires, c'est costard-cravate obligatoire. Donc, ta marque Seagull, je vais la poncer, je vais aller voir ce qu'ils font. Parce que rien qu'à l'idée de me remettre des costards-cravates et des chaussures aux pieds, ça me fout une angoisse. Donc voilà, merci pour le tuyau.
Avec plaisir, avec plaisir. Écoute, pour finir un peu cet épisode, est-ce que tu pourrais nous détailler une journée dans la vie de Pierre Dufraisse? Quelles sont tes routines, tes hacks? Comment est-ce que tu organises tes journées?
Ouais. Ce terme de hack, je l'aime pas du tout. Faudrait que je le dise à Léo d'ailleurs parce qu'il parle beaucoup de biohacking. Le biohacking, moi, c'est pour moi, biohacking, ça fait comme si on était plus intelligent que le système et on trouvait des raccourcis quelque part.
Ouais, c'est du marketing aussi.
Oui. Je comprends ce qui veut être dit. Je comprends la philosophie derrière. C'est vachement intéressant. Et de toute façon, je me revendique un peu de cette philosophie-là aussi. Mais pour moi, ça serait manquer d'humilité. On est très loin de comprendre le système. Les hackers, en fait, c'est des gens qui sont plus intelligents que l'algorithme. Ils vont inventer, ils vont trouver les passes droits, etc. Nous, on est loin d'être des hackers de la nature. Très loin.
D'autant plus que le vrai biohacking, initialement, c'est un courant qui vient plutôt des États-Unis,
ouais.
Et où des chercheurs dans leur garage, plutôt que de coder des programmes informatiques, utilisent CRISPR pour bodybuilder des grenouilles.
C'est ça.
Donc à la base, c'est ça le biohacking. C'est pas du tout. En France, ça a une connotation plus naturelle,
c'est
justement.
Ça. Ouais.
Plutôt une façon d'essayer de pirater notre physiologie naturellement. Mais aux États-Unis, c'est quelque chose qui est beaucoup plus chimique.
C'est clair. Donc la journée, écoute, je me lève tôt parce que je me couche tôt. Je me lève à 5 heures, mais je m'endors à 21 heures. Donc voilà. Tout ça naturellement sans réveil depuis que je suis rentré du Japon, donc depuis 2013. Ouais. Ma vie au Japon était complètement à l'inverse de celle-ci. Je me réveille généralement en pleine forme, beaucoup plus reposé. Et donc pour tout des tas de, voilà, d'explications que j'ai beaucoup faites sur Verisme TV autour de du rythme circadien, de l'acrophase, du cortisol, de plein de choses, avec cette énergie là le matin, j'ai pas faim et c'est le moment où ma neuroplasticité peut être challengée. C'est-à-dire c'est là où je vais mettre mon apprentissage académique et linéaire, c'est-à-dire je vais ouvrir un bouquin qui va me demander une réflexion et une prise de notes, c'est-à-dire je vais me mettre à réfléchir dans des trucs voilà où apprentissage académique poussé. Ça généralement c'est ce que je fais direct le matin en squat. Voilà, je suis bien, je me mets dans ma zone. Tu vois, c'est pas un moment de flow ou c'est un moment de créativité. C'est vraiment de recherche et d'apprentissage. Après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir sans doute une exposition au froid. Alors ça peut être une douche froide, un bain froid. Et où je pars à m'entraîner. Voilà, c'est donc généralement vers 8 heures, je commence à ne plus en pouvoir, j'en ai marre de rester en place. Voilà, moi j'ai la bougeotte. Donc si de 5 à 8 heures, j'ai travaillé, ça peut très bien être aussi des emails vers 7 heures, j'allume l'ordi et je traite des emails si j'ai des trucs à faire. Mais j'aime pas trop mettre l'ordinateur le matin. Donc après c'est l'entraînement et là c'est le meilleur moment. C'est là toi qui je vois ton sourire, toi aussi t'entraînes le matin, c'est quand même le jouissif au possible. J'ai la chance d'aller dans une salle où il y a des gars qui sont trop marrants et avec qui je rigole. C'est comme dit Ido, c'est très important d'avoir sa tribu et c'est des gens très marrants, voilà, très simples et avec qui je m'entends extrêmement bien, on rigole beaucoup, et on s'entraîne ensemble, donc c'est cool. Ils me voient faire des trucs qui... ils me prennent pour un fou, mais c'est pas grave. Ça leur change aussi de leur machine de muscu. Bien que j'utilise parfois des machines de muscu, hein, y a pas de problème. Mais je fais quand même des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire.
De quoi, type street
Ouais, mouvement de locomotion à la Ido Portal, hein, typiquement. Hein, j'amène mes anneaux de gymnaste. Ça ressemble vraiment beaucoup au travail de calisthénique aussi. Hein, voilà, j'aime tout ça, travailler au poids du corps.
Super.
Et c'est vrai que je sais que j'ai certains points faibles au niveau de certaines chaînes cinétiques. Et là, des poulies, des machines peuvent vraiment m'aider à cibler un groupe musculaire. Et c'est pour ça que je ne crache pas du tout dessus. Donc... Voilà, rentrée du sport, ça va être vers 11h, 11h30. Là, généralement, j'ai une bonne dalle. Donc là, il y a mon repas.
Tu t'entraînes de 8h à 11h30, du coup? Ça te fait un sacré entraînement.
Non, ça va être 8h, je commence à bouger, je prépare le départ, etc. 8h30, un bon gros échauffement. Je pense que l'entraînement, véritablement, il commence à 9h. Il va durer 3 quarts d'heure, 1 heure. Après, vers 10h... Soit je vais faire les courses, soit je m'arrête au café du coin, je vais prendre ma tisane, je vais sortir l'iPad, je vais bosser un peu, je vais faire quelque chose, ou sinon je rentre à la maison et pareil, je vadrouille, je vais là justement après ce pic d'activité, c'est le moment où tu es créatif. C'est pas le moment de faire un apprentissage académique. C'est le moment où la plasticité, elle va être zéro. C'est-à-dire il te faut un DPO comme le disent les Américains en neurosciences, c'est-à-dire duration path outcome, durée process et résultats qui soient très connus par le cerveau. Donc tu peux faire très bien du dessin. Là je peux me mettre à dessiner, tu vois, je peux faire des trucs. C'est le moment où tu es dans le flow et tu peux être créatif. Donc là ça peut se passer à ce moment-là. Sinon voilà, 11h 11h30, généralement je déjeune tôt, hein. Je déjeune avant midi. Mon repas. Après je me suis chopé l'habitude de marcher après le repas. Depuis que les gros monsieur du bodybuilding et de l'entraînement de force que sont Stan Efferding et l'autre c'est qui déjà? Alors, encore j'ai un trou de mémoire. Bon bref, aux États-Unis ils parlent du 10 minute walk, de absolument marcher 10 minutes après chaque repas pour réguler la glycémie sanguine, etc. Au début comme j'ai dit, j'adore être mon propre laboratoire. Je dis bon bah je vais tester, si bien je vais tester. Et en fait c'est super bon, j'adore de pas me poser. Et après le repas, boum, c'est juste marcher 10 minutes. En plus, 10 minutes, c'est extrêmement vite fait. Donc voilà, je marche, je rentre, je me fais une séance soit J'ai besoin de dormir. La sieste en ce moment, j'en ai besoin. Ça me fait du bien. Mais surtout, le game changer de ces 6 derniers mois, c'est le NSDR, le Non-Sleep Deep Rest, donc le repos profond sans sommeil, qui est en fait issu du Yoga Nidra. Yoga Nidra, c'est une voix qui te guide, et elle te guide en faisant un scan du corps, rapide. Elle te dit orteil droit, pouce droit, genou gauche, etc. Et toi, en fait, tu dois juste visualiser ça et pas réfléchir. Et parce que c'est une voie externe, parce que tu es guidé et parce que tu visualises ton corps dans l'espace, tout ça mis bout à bout fait un reset en fait du striatum, donc une région du cerveau qui gère le go no go, qui gère la dopamine, les circuits, etc. Et ça fait un reset. Normalement, il n'y a que le sommeil qui permet de faire ça. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à dormir, qui n'arrivent pas à faire la sieste, qui sont toujours dans le va-et-vient et dans le petit vélo dans la tête et qu'ils n'arrivent pas à se poser, peu importe si vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez trouver les mêmes bénéfices que le sommeil avec cette technique là qui est géniale. Alors le Yoga Nidra va utiliser des termes du yoga encore une fois qui peuvent sembler un peu trop perchés pour certains, mais le NSDR c'est le côté scientifique occidental. Moi j'adore.
Vraiment. Et la méditation de manière générale, les bodyscans etc. ont pas les mêmes bienfaits?
Différents, ouais. Différents, même les techniques de respiration, tout ça, la concentration sur la respiration, apparemment seule cette technique-là aurait les mêmes effets que le sommeil et permettrait de rattraper des dettes de sommeil, etc. Donc,
Testerai.
Ouais, à vraiment à tester. Moi, en tout cas, j'adore parce que ça me permet aussi d'analyser les et ça, c'est vraiment cette technique-là qui me permet mes différentes phases d'endormissement. On parle tout le temps des phases de sommeil, tu sais, profond, léger, etc. Mais est-ce que t'as déjà analysé les phases d'endormissement? C'est-à-dire, bon là, comme quand t'es en train de bouquiner, bon là, je suis à peu près éveillé. Puis là, tu commences un peu à fermer les yeux et tu commences vraiment. Tu vois les phases d'endormissement en fait au moment où tu vas vraiment t'endormir. Et ça, ce qui est génial dans cette technique-là, c'est que tu le sens venir vachement à l'avance. Et tu dis punaise, je suis en train de sombrer. Ah ouais, ah ouais, je suis en train de sombrer. Ouais, ça va venir. Et puis là, je sais que je vais m'endormir. Mais maintenant, ça marche chaque fois. Ah, ça y est, je suis sur la bonne voie. Et en 5 minutes.
Et c'est pas un blackout.
Et c'est pas un blackout. Voilà, c'est ça,
c'est progressif.
C'est, exactement. C'est que tu peux vraiment prendre le temps de l'analyser. Et ça, c'est génial.
Ok.
Donc,
à tester.
Ouais. Voilà ça. Ou sieste. Vers 15-16 heures, voilà, c'est l'heure où on s'est retrouvé. J'ai un repic d'activité. Donc là, ça peut.
Cool, j'en ai profité.
Vous êtes clair. Ça peut être tourner une vidéo pour Verisme TV, enregistrer un podcast avec un invité comme toi. Ça peut être une. Alors ce qui est non négociable, s'il n'y a pas voilà de vidéo ou quoi que ce soit, c'est la marche. Je pars me balader. J'ai une belle nature autour de moi. C'est à ce moment-là que je vais placer aussi les techniques de respiration en marchant. Je rentre chez moi vers 17 heures. Je bidouille de trucs. Encore une fois, ça peut être du dessin. Ça peut être vraiment le dessin, c'est ma passion. Je les poste sur Instagram parce que c'est vraiment une voie pour moi royale.
Tiens, j'irai voir. Je suis pas du tout réseaux sociaux, donc ouais. Le compte Instagram de Limitless Project, d'ailleurs, c'est ma copine qui le gère. mais j'irai voir à l'occasion quand même.
Ouais. Je le poste régulièrement. Instagram, j'aime bien parce que c'est plus informel. Verisme TV, YouTube, comme j'ai commencé par ça, tout le contenu que j'y mets, j'aime bien que j'y fais gaffe, quoi, en gros, entre guillemets. Instagram, c'est ce que je mets, ce que je fais tous les jours, voilà. Dont les dessins. 18h, je vais manger. 18h, je vais vraiment avoir la dalle. Et puis après c'est la vie de famille le soir. Ça veut être on va regarder un truc. Bon, je vais avoir sommeil relativement tôt, donc si on met un film, ce sera plutôt vers 19h. Un film, une série, tout ça. Dodo.
Mais
lecture.
Ça, je trouve ça génial avec, tu vois, tous les trucs de vidéo à la demande, type Netflix, etc. Même si moi, je critique souvent le fait de s'abrutir devant ça toute la soirée quand t'as déjà rien fait d'intéressant dans ta journée.
C'est sûr.
Mais pour autant, parfois, t'as juste besoin de te détendre et tout. Et avant, t'étais complètement tributaire des horaires, du programme. Comme tu disais, le film, il commence à 21h et finit à 23h. Bah, t'es obligé de te coucher à 23h et tout. Et ça correspond pas forcément aux horaires de tout le monde. Et donc, le fait de pouvoir choisir ton programme, commencer ton film à 19h, le finir à 21h, aller te coucher, c'est génial.
Ouais. Et puis tu peux quand même avoir une sélection de trucs qualitatifs.
Oui. C'est-à-dire je suis pas dogmatique non plus, hein, t'inquiète pas.
Non, mais c'est pas ça. C'est que on a le même âge. Tu te souviens quand on était petit, les films à 21h, on n'avait pas le choix.
Il y avait
de la 1 à la 6, on avait 4 chaînes. Et s'il y avait de la dope sur toutes les chaînes, bon, bah regardez un film de merde. T'es là, bon. encore ce film-là qu'on a vu 100 fois, ou bien celui-là, c'est vraiment nul, les acteurs jouent mal. Là, tu peux choisir quand même un truc, soit du haut niveau en cinéma, en termes d'acteurs, réalisation, etc., soit un truc dans ton domaine qui te passionne, une conférence ou quoi, une série qui te fait rire, ou
voilà,
qui décroche complètement.
Ça fait du bien aussi de temps en temps.
Ah, mais carrément, moi, je suis vraiment addict. Tu parles au plus grand fan de Kaamelott sur cette planète, tu vois. Non, mais voilà. Ce choix de consommation, on est acteur de ce qu'on consomme. Encore une fois, on vote avec sa carte bleue. Il faut savoir où est-ce qu'on met son argent. Et c'est clair que le donner à des grands comme Netflix ou quoi, ben ça a un impact sur la société. Donc il faut bien savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est pas. Moi j'aimerais hein, le donner à une plateforme qui soit vertueuse plutôt que à un grand comme Amazon ou quoi. Mais force est de constater que les programmes qu'ils proposent sont super, vraiment.
Ouais non clairement. Bon après ouais bon ça peut être un long débat encore.
Bien sûr.
Ouais, j'aurais pu rebondir mais je vais décider de pas le faire.
Pour la prochaine fois.
Voilà, regardez. Pour la prochaine fois parce que j'ai encore deux questions à te poser.
Mais bien sûr, balance.
La première, t'as donc moi je crois beaucoup en partage de connaissances, en l'apprentissage et donc évidemment en la lecture. Mm-hmm. Est-ce que t'as un livre à me recommander?
Ouais.
Tu m'en doutais. D'ailleurs, tu m'en as déjà cité 4-5 ouais. que j'irai voir.
Donc je ne les reciterai pas. Puisque j'ai déjà cité Antifragile de Taleb, qui est monumental. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un génie ce type et il nous a livré l'œuvre de toute une vie. Voilà. Lisez Patrice Franceschi, l'éthique du samouraï moderne. Voilà, rien que ça. Parce que c'est le livre que j'ai en quadruple exemplaire. C'est ma bible.
Bon, on passera chez toi, tu m'en donneras.
Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que j'en ai offert beaucoup. Je l'ai surligné dans toutes les couleurs, toutes les phrases. Quand j'en parle, j'en ai des frissons parce que c'est le grand descendant des stoïciens et c'est quelqu'un de merveilleux qui s'engage au niveau humanitaire. Voilà, c'est un héros contemporain qui est pas connu. Donc, et il écrit des choses fabuleuses. Donc, l'éthique du samouraï moderne. Voilà.
Bon bah super. Et où est-ce qu'on bon bah évidemment Verisme TV ça je mettrai le lien etc. Tout le monde le connaît. Mais qu'est-ce que si on veut justement si on veut quelque chose de peut-être plus individuel si on veut te aller un petit peu plus loin qu'est-ce que tu proposes comment est-ce qu'on peut travailler avec toi?
Ouais. Alors en ce moment c'est très complexe parce que le temps joue en ma défaveur.
Malheureusement, comme pour
alors,
tout le monde.
C'est clair. Mais là, en plus, géographiquement, ça va pas le faire parce que avec tous les projets, on va faire un petit peu un tour du monde, donc ça va être complexe. Bref, je me suis engagé auprès de 3 équipes professionnelles et quelques athlètes professionnels qui me prennent beaucoup de temps, dont une équipe de basket dont j'en parlerai bientôt parce que c'est du basket féminin, donc c'est j'adore me pénétrer dans ce monde que je ne connais pas trop, une équipe féminine. Et ça fait que l'accompagnement individuel pour l'instant il est fermé. Je peux pas prendre plus par faute de temps et d'attention. Mon enseignement, j'essaie de donner le meilleur dans mes formations en ligne sur hormes.com. Donc là, à ce stade, il y a 5 formations disponibles. Donc ça va de la respiration à l'alimentation qui est très naturopathique, comment intégrer le jeûne si vous en avez le souhait, etc. Et c'est beaucoup de cours de physio, mais aussi de la pratique dans les exercices physiques, dans les techniques de respiration, tout ça. Donc ça, c'est sur armes.com. Je vais reprendre les stages. C'est sûr que la situation du Covid était complexe, donc au plus vite... J'espère reprendre les stages, peut-être pour la fin d'année 2021, mais sinon en 2022, ce sera sûr, il y en aura. Voilà, c'est des stages immersifs d'une semaine où on travaille tout, beaucoup encore une fois de théorie, mais aussi de pratique, dans voilà, le chaud, le froid, l'exercice physique, la respiration et tout ça. Voili voilou.
Bah écoute, c'est super, je mettrai de toute façon les liens de tout ça. Écoute, Pierre, je te remercie pour ton temps, c'était un épisode hyper enrichissant, je suis très content d'avoir fait ta connaissance et d'avoir appris tout ça. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour un deuxième épisode parce que honnêtement, j'ai eu envie de rebondir à plusieurs moments et je me suis retenu parce que sinon on aurait parlé pendant 4 heures et ça aurait été génial mais peut-être un peu long. Donc voilà, donc je me suis dit qu'on allait se réserver pour un deuxième épisode. Mais vraiment merci pour ton travail, pour ton temps et pour ta générosité parce que tu partages. On sent vraiment quand tu partages que tu partages avec passion ce que tu ressens au plus profond de toi-même et sans pression, tu vois, sans dire il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Mais vraiment dans la générosité, dans le fait, voilà, j'avais déjà écouté une interview du fondateur de Petit Bambou et il disait mon but c'est pas de convaincre quelqu'un de télécharger l'application et de tester, c'est juste de montrer qu'il y a une voie qui existe et faire naître l'envie ou non de la suivre. Et je trouve que t'es vraiment dans cette logique-là, et c'est assez rare pour être souligné et remarqué, donc merci.
Ces mots me touchent beaucoup, vraiment, David, c'est moi qui te remercie pour tout ton temps, là, et le fait d'avoir fait cette démarche de me contacter, de venir m'interviewer, et d'être aussi un si bon intervieweur.
Merci.
Parce que je connais cette posture, j'adore tendre le micro, ça j'adore, hein. Mais c'est pas donné à tout le monde de savoir le faire. C'est vraiment une capacité. Alors soit tu l'as, soit t'apprends à le développer, mais je pense que c'est quand même une aptitude assez naturelle. Et le fait de savoir poser les bonnes questions, relancer, etc. Bravo, parce que tu fais du super boulot. Et merci pour tous ces mots si gentils, vraiment. J'ai parlé de Maurice et je terminerai sur Maurice. Je suis allé dans le froid alors que j'avais horreur du froid, mais horreur. C'est-à-dire que chaque hiver, j'allais à Bali ou en Thaïlande pour fuir le froid. Et je me suis dit, bon, tu veux pas ça dans ta vie, donc tu vas aller au cœur de la Meule, tu vas aller voir le yoga du froid, tu vas aller voir Maurice. Mais j'y suis allé pour apprendre l'exemplarité et la discipline. C'est tout. C'est les deux choses qui me manquaient dans la vie. Et Maurice me les a transmises. Et ce que tu es en train de me décrire là, c'est pour moi inspirer les autres par son exemplarité. En fait, il n'y a que ça. C'est-à-dire, on ne change pas les autres. On ne change que soi-même. Et si tu veux changer les autres, change-toi toi-même. C'est comme ça, c'est ce que tu vas rayonner sur l'autre. Et c'est pour ça que je pense que la médiocrité est le plus haut taux d'égoïsme. C'est-à-dire que à partir du moment où tu acceptes la médiocrité en toi, dans ton temple sacré, comme on disait précédemment, tu rayonnes en fait quelque chose de négatif et donc tu es égoïste en quelque sorte parce que tu impactes les gens qui t'entourent. Donc, pour le dire autrement, prendre soin de soi, c'est le plus haut taux d'altruisme. Et j'espère, que parce que je prends soin de moi, ça se voit et ça se sent, et donc je deviens altruiste, et donc je suis altruiste. Voilà. En tout cas, ce que tu viens de me dire, les compliments qui me vont droit au cœur, j'ai l'impression que ça reflétait ça, et donc j'en suis très heureux et fier. Merci.
Ouais, c'est le cas. D'ailleurs, tu vois, moi à côté de ça, je suis entrepreneur, j'ai une boîte, etc. Concrètement, je pourrais arriver à l'heure que je veux, enfin faire ce que je veux. En fait, c'est ma boîte. Et pour autant, je me suis toujours astreint à être pile en à l'heure, même la plupart du temps largement en avance. Enfin, tu vois, à m'appliquer toutes les règles que j'ai dictées auprès de mes salariés, parce que justement, pour moi, la base, c'est l'exemplarité. Et qui d'autre que le patron doit l'être.
Ouais.
Donc je suis tout à fait en phase avec ça, je trouve que c'est très bien de le dire.
Eh ben bravo David.
Merci, à bientôt Pierre.
À bientôt, bye.
Ciao.
Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.